Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité. Il est 8h01 sur les ondes de Radio Galère. Vous n'avez pas le retour son, mais vous l'avez dans les casques, a priori. Les auditeurs nous entendent. Nous sommes donc en direct sur les ondes du 88.4 de la bande FM, évidemment, sur les ondes de Radio Galère. J'espère que tout le monde m'entend et qu'on puisse m'entendre correctement. Est-ce que vous m'entendez très bien, chers collègues, non ? Richard, Christian.
C'est fort, là.
On t'entend très bien. J'espère que surtout les auditeurs nous entendent.
Parfait, impeccable, si vous m'entendez très bien. On est en train de tester la nouvelle table de mixage. Donc, on essaye évidemment de faire au mieux. Merci aux techniciens qui ont œuvré là, pendant une bonne semaine. Pendant une bonne semaine. Donc, on est en direct. Bande FM 88.4, vous en avez l'habitude. www.radiogalère.org pour ceux, évidemment, qui sont sur le net. Et pour ceux qui possèdent la RNT, la radio numérique terrestre, c'est le canal 8C. On va donc vous présenter le sommaire. Il est extrêmement alléchant, on en a l'habitude, mais en tout cas, c'est une règle d'or à Radio Galère, c'est de susciter votre curiosité et en tout cas de vous éclairer sur différentes actualités locales. On va donc faire une petite revue de presse très rapide et on va se lancer notamment sur l'investiture de Donald Trump. On aura l'occasion, ils sont déjà avec nous, de parler d'une exposition qui s'appelle Sortie de réserve avec Morgan Miracolo qui est déjà avec nous en tant que photographe-auteur. Il est accompagné de Corinne Laurent, attachée de presse. L'expo a démarré il y a une petite dizaine de jours et jusqu'au 15 mars, notamment au musée provincial de Château-Gombert. Ça, c'est dans 7-8 minutes sur les ondes de Galère. Ensuite, 8h45, 9h25, on aura le plaisir de parler des rencontres. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Les rencontres cinématographiques des droits humains. Donc, c'est un gros programme qui est avec nous. Ça s'appelle les RCDHP. On aura l'occasion de l'évoquer pendant près de 40 minutes. Et on bouclera de 9h30 à 10h par, notamment, on aura l'occasion de recevoir un chorégraphe, Christian Hubel et Cédric Chaoury, pour nous parler notamment de CLAP, la maison de la danse. Voilà, mais tout de suite, c'est évidemment l'actualité. Les auditeurs, auditrices, vous êtes les bienvenus. Exceptionnellement, le standard ne fonctionne pas aujourd'hui, donc n'appelez pas, ça ne sera pas un succès, mais vous pouvez réagir par
succès,
SMS,
alors,
comme vous en avez l'habitude, par le biais de mon numéro. Bonjour Christian, bonjour Richard.
Eh bien, bonjour à nos invités qui sont déjà là, ainsi que les auditeurs et les auditrices, Christian et Anthony. Alors voilà, une journée super importante suite aux élections américaines en France. Mais c'est la plus importante, c'est la journée franco-allemande aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le socle européen qui fête cette journée. On voit bien que, compte tenu de l'actualité, c'est une journée qui est essentielle. Et avec donc un petit truc qui dit partenaire, un jour partenaire toujours. Est-ce que ce sera le cas ? Nous le souhaitons tous. Et voilà, c'est une journée très importante.
On rappelle que l'Allemagne est le premier partenaire économique de la France, donc forcément, il y a aussi.
Voilà, quand on voit les vestes qui se retournent, on s'inquiète. Bon, on va être très loin. Après, Christian va donner quelques brèves sur les actualités. Et après, on reviendra enfin en Provence avec quelque chose de sublime. Voilà.
Exactement. Et c'est dans 5 petites minutes sur les ondes de Radio Galère. Bonjour Christian.
Oui, bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Galère. Bonjour à nos invités. Et merci pour ce rappel de cette journée franco-allemande, Richard.
Exactement. Et on en a bien besoin. Il faut l'évoquer.
Dans cette période, elle est très importante.
Tout à fait. Allez, on attaque rapidement la revue de presse et notamment l'investiture de Donald Trump. Donald Trump signe un flot de décrets devant ses supporters parce qu'on peut quand même l'indiquer, on connaît un petit peu la folie américaine. On rappelle que le nouveau chef d'État a signé ses premiers décrets devant ses électeurs. Il a annulé 78 textes de son prédécesseur Joe Biden. Les suivants étaient destinés, je cite, à suspendre les régularisations pardon, des immigrés, geler les embauches des fonctionnaires fédéraux, sortir des traités internationaux sur le changement climatique. Bon, évidemment, chaque paragraphe a été acclamé par ses supporters. Il n'en demeure pas moins que ça reste évidemment problématique pour certains, notamment pour la communauté internationale. Et voilà, c'était du Donald Trump dans toute sa splendeur. Christian, telle une rockstar.
C'était une rockstar. Hein, on l'a vu se mettre en scène sur son bureau, là, signer les décrets avec ses supporters autour. Il a même jeté ses stylos chaque fois qu'il signait. Et les gens se précipitaient comme si c'était la culotte de Madonna, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, elle a fait Madonna, ça. Hein, je m'en rappelle. je m'en souviens. Donc finalement, voilà, c'est une vedette qui a pris la présidence des États-Unis, mais enfin une vedette assez contestée parce que apparemment il est revenu sur beaucoup de choses qu'avait fait l'ancien président. Et un gros point de pénibilité, c'est le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Alors, en sachant que les États-Unis, c'est le deuxième producteur de CO2 du monde. En plus, après il se Chine, retire du climat. Il a dit qu'il allait les relancer à fond la fracturation pour le gaz de schiste et pour le pétrole. Donc ça promet des jours très, très pénibles pour la planète. Et finalement, bon, c'est catastrophique parce que quand on réfléchit à les rapports du GIEC qui s'amoncellent en disant qu'on ne peut plus contrôler pratiquement le réchauffement planétaire, on voit les catastrophes qui se passent d'ailleurs aux États-Unis avec ces incendies. Et lui-même, il était obligé de rester dans la salle parce qu'il faisait un froid polaire à l'extérieur. Ses supporters n'ont même pas pu l'acclamer en direct parce que s'il faisait trop froid. Donc on voit bien que c'est tout à fait... Comment on peut dire, c'est au niveau artistique, c'est tout à fait incompréhensible qu'on puisse élire une personne comme ça à la présidence d'un État aussi grand et aussi puissant.
Tu vas peut-être te faire des ennemis, mais tu vas peut-être te faire aussi des amis, évidemment, en évoquant cet état de fait. Mais en effet, c'est extrêmement rocambolesque.
C'est rocambolesque. C'est tristement rocambolesque. C'est un cauchemar.
Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'à peine investi, il veut marquer en tout cas de plein fouet un petit peu la presse en disant voilà, il fait une offensive anti-immigration, il revient sur l'accord de Paris. Bon, il y a la question du genre qui est un vrai problème aussi idéologique.
Il se retire de l'OMS aussi.
Il se retire de l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc voilà, c'est du Donald Trump dans toute sa splendeur. La preuve en est, c'est que les Américains ont voté pour lui. C'est qu'a priori, il fait quand même les faveurs de beaucoup d'électeurs.
C'est ce qui est inquiétant. C'est que des millions de gens adhèrent à un programme tel comme ça. C'est inquiétant pour l'humanité et pour l'esprit humain. Parce que je dis, comment on peut faire pour adhérer à un programme comme ça? C'est invraisemblable et incompréhensible.
Vaste programme. Richard, qui est moins incisif que toi sur le dossier, le connaissant un petit peu. Richard, ton avis, on a une petite minute.
Allez, on va faire deux petites plaisanteries. Il faut donner 2000 euros à chaque migrant des États-Unis pour qu'il parte vite en une semaine. Voilà, donc si on pouvait les libérer une semaine, on verrait si les États-Unis sont très bien d'abord, hein, sans travailleurs. Ça, c'est déjà pas mal. Donc si vous avez les sous, faites vite pour qu'ils puissent vite partir. D'autre part, pour l'exportation, il augmente, je crois, les produits français de 10%. J'invite les producteurs qui vendent à augmenter leur prix de 10%, ce qui fera des recettes pour l'État.
C'est ce qu'ils
vont
faire,
d'ailleurs. Et à vite trouver des marchés à l'extérieur, car un marché américain devient pourri. Voilà.
Voilà.
J'arrête là.
Il y a un second degré, évidemment, mais c'est pour rappeler...
C'est les mêmes caricatures qu'il fait, hein.
Cette politique qui est quand même sur le plan humain qui est inacceptable, et ça c'est important de le rappeler, et Radio Galère ne milite absolument pas dans ce sens-là, c'est important de le rappeler. 8h10 sur les ondes de Radio Galère, on ouvre notre volet culture et on est ravis d'accueillir nos invités qui sont déjà là ce matin. On salue évidemment, on excuse l'absence du conservateur du musée provençal qui se trouve à Château-Gombert, qui aurait dû être avec nous. Mais évidemment, le trafic routier en a décidé autrement. Alexandre Maillot aurait dû être avec nous. Il n'est pas là. Donc, on le salue. En tous les cas, on l'invitera prochainement. Il pourra revenir avec grand plaisir. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Morgane Miroccolo, photographe-auteur, accompagné de Corinne Laurent, attachée de presse. Bonjour, Corinne.
Bonjour.
Voilà, qu'on connaît bien Radio Galère, qui est venue à plusieurs reprises et qu'on est toujours ravis d'avoir, puisqu'elle nous amène...
Très bonne professionnelle.
Hein. Exactement, et des dossiers.
Elle nous amène toujours des grandes vedettes.
Exactement, la grande vedette, elle est là.
Elle est là avec vous.
Morgane Miroccolo. Bonjour Morgane.
Bonjour. Voilà, le grande vedette, c'est un peu grand quand même.
Allez, il ne faut pas être modeste sur Radio Galère.
En tout cas, on est ravis de vous accueillir.
Merci.
Vous, en tant que photographe, amoureux de la Provence, des traditions provençales, voilà, vous êtes... Alors, on l'évoquait tout à l'heure en off avec du second degré, mais... attaché évidemment à Mauriès, qui reste quand même un bastion de la Provence. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est toujours dans les Bouches-du-Rhône, parce que c'est vrai qu'on pourrait croire qu'on n'y est pas, puisqu'on est quand même à... On doit être à quoi, 70?
C'est pas dans le nord, en tout cas.
Non, c'est pas dans le nord, non, mais c'est à 70 km.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Dans les Alpes, donc finalement,
c'est raisonnable.
Pas très très loin.
C'est pas très loin.
Exactement. On a aussi le soleil.
Exactement. et le très beau soleil, et vous n'êtes pas loin des Beaux-de-Provence, enfin, c'est très bien. Alors justement, on vous a invité, Corinne m'avait transmis ce dossier-là, pour nous parler de cette exposition qui a démarré donc il y a 10 jours, enfin 11 jours pour être précis, le 11 janvier, au musée provençal, donc qui se trouve à Château-Gombert. On peut peut-être en dire deux mots, parce que, évidemment, on n'a pas son conservateur, mais un mot sur, j'allais dire, votre hébergeur du jour. Parlez-nous un petit peu de cette connexion aussi qui a eu lieu, puisque là aussi, il y a, au-delà de l'affinité, j'imagine, de la complicité qu'on peut avoir avec les personnes, il y a aussi un attachement, en tout cas, à ce que votre exposition puisse être relayée par le musée provençal. On connaît bien Château-Gombert à Radio-Galère, on a souvent fait
le festival
de folklore, oui, provençal, le Félibré. On salue Denis qui vient toutes les années, d'ailleurs c'est en juillet, pour nous parler du festival. Et on sait que Château-Gombert est attaché, en tout cas, à la culture provençale, au folklore provençal, aux traditions provençales.
Et international aussi, parce que ce festival, c'est vraiment un festival international où toutes les cultures folkloriques du monde viennent se présenter, se rejoignent.
Exactement, voilà, Morgane l'évoquer, on est d'accord, on peut dire que vous êtes un vrai Provençal.
Oui, clairement, oui, je suis né ici, enfin en Provence en tout cas. Et voilà, le musée est actuellement en phase de rénovation.
Oui.
Et,
depuis 2022, si je ne dis pas de bêtises.
Depuis 2022, tout à fait, et c'est comme ça qu'a commencé ce travail avec le musée.
Bon, très bien. Comment on peut qualifier votre travail? D'ailleurs, j'invite auditeurs, auditrices, vous tapez Morgane Miracolo sur les moteurs de recherche. Corinne me l'avait transmis, mais j'avais eu l'occasion d'y aller. Vous avez sa griffe artistique. Comment on peut vous identifier artistiquement? On sait que la photo, c'est quand même un fait. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Et puis, ça développe beaucoup d'interactions, beaucoup d'émotions. Je pense qu'on est tous plus ou moins différents face à une photo. On a tous nos émotions, nos sensibilités, les interprétations, la nostalgie aussi par rapport à un costume, à une photo, à un paysage. Et ça, je sais que vous êtes attaché à ça, même si vous avez bourlingué un petit peu. Hein, vous êtes allé.
Il a voyagé. Il a beaucoup voyagé.
On va citer rapidement, mais le Chili, l'Argentine, l'Inde, l'Islande. Et je crois que c'est l'Australie qui vous a le plus marqué a priori. C'est ce qui est indiqué, Morgane.
Oui, parce que l'Australie, c'est quand même le premier grand voyage que j'ai effectué. Et du coup, on ressort pas indemne d'un premier grand voyage. Mais j'avoue que l'Islande était un rêve de tout petit et c'est quand même une destination qui est quand même...
Et vous avez pris des photos aussi dans tous ces voyages, je suppose.
Tout à fait, ouais.
Voilà.
Tout à fait.
Des centaines, peut-être des milliers, qui sait.
Peut-être des milliers, exactement.
Sûrement des milliers.
Sûrement des milliers.
Avec les appareils de maintenant, c'est des millions.
C'est vrai.
Morgane, un mot. Oui, on parlait vous immortalisez à l'époque les courses camarguaises, que... Évidemment, vous êtes focalisé aussi sur le volet provençal. Expliquez-nous cette affection pour la Provence et expliquez-nous ce qu'on va voir dans cette exposition au sein du musée, on le rappelle, pendant près de 2 mois.
Oui, tout à fait. Alors du coup, j'ai commencé par la course camarguaise et c'est quand même un travail qui est assez important et récurrent chez moi parce que depuis tout petit, j'ai cet attachement avec le taureau. C'est quelque chose que je développe en parallèle et que j'aimerais vraiment faire connaître par la suite.
C'est plutôt votre ville qui est attaché à ça, puisqu'on sait qu'on se rapproche de la Camargue, on est d'accord.
Ouais, hein. C'est beaucoup plus sur la Provence bucco-rhodanienne pour le coup, et au-delà, bien sûr, avec le Gard et l'Hérault qui font partie de ça. Mais voilà, après tout est relié en fait finalement, parce que l'Arlésienne qui se trouve sur ce territoire a fait la connexion justement au musée de Château-Gombert dans l'idée de faire vivre, enfin refaire vivre en tout cas les collections qui sont pour l'instant fermées et dans des caisses de conditionnement. Voilà.
Donc moi j'avais eu l'occasion bien sûr de voir le musée provençal avant la restauration. Bon, c'était un musée déjà magnifique à l'époque. Bien entendu, tout était un peu vieillissant, retravaillé, etc. Ça doit être un travail colossal.
C'est pas le Sacré-Cœur, mais ils ont dû tout refaire.
Voilà. Non, elle n'est pas finie.
Jusqu'à la fin de l'année, je crois, a priori. Ouais,
c'est pas encore fini.
Mais je veux dire, c'est un travail colossal de tout refaire. Quoi. Ouais. C'est nettoyer, raviver.
C'est monumental.
Je sais pas, j'ai vu les photos que vous avez faites, bon, certainement, du musée. C'est magnifique. Quoi. Et on évite tous les Provençaux et... les autres à venir le visiter. Il y a un parking qui n'est pas loin.
Oui, à côté de l'église, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
On peut regretter, après je finis avec ça, que le restaurant et l'hôtel ne soient pas réouverts encore aujourd'hui.
Ça va venir, Richard, sois patient.
Peut-être.
Un épicurien, notre cher Richard.
Il faisait de la cuisine provençale, bien entendu.
Oui, il faisait de la cuisine provençale.
Évidemment.
Il faisait des tripes, des plats avec de l'encre de sèche. Enfin bon,
vraiment de notre émission.
Et en plus, c'était très bien. Et après, il y avait donc sur une esplanade une pianiste qui venait animer
le repas.
Le repas, bon, voilà.
Bon.
Donc, parfait, en tout cas, bravo, merci pour ce
coup de cœur.
On peut inviter
les gens y aller.
Tout à fait. Justement, un mot avec Corinne, puisque Corinne a déjà visité l'exposition. D'ailleurs, on a 2 mois pour y aller. Je pense que ça serait sympa qu'on puisse s'y rendre, évidemment, pour relayer le travail de Morgane Miroculo qui est avec nous. Corinne, vous vous êtes déplacée à l'expo en tant que vraie professionnelle et peut-être parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie, voilà. Puisque c'est une vraie cinéphile.
Il y a la photo aussi, c'est
voilà.
Ça
aussi. Mais il y a la photo aussi. Parle-nous un petit peu de cette rencontre, cette connexion et puis aussi de ce que ça dégage comme émotion et comme ressenti.
Alors c'est vrai que ce musée, moi j'avoue, je ne le connaissais pas du tout. Et quand on m'a dit c'est au musée provençal à Château-Gombert, je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait représenter.
Comme quoi?
Voilà.
C'est les préjugés, ça. Voilà, c'est
ouais,
ça.
Complètement.
C'est un alors... petit truc de rien du tout.
Et après, par la suite, j'ai appris que c'était le 2e musée ethnographique provençal après le musée Henri Latan à Arles. Et là, ça a tout changé. Quoi. Et donc, j'ai rencontré Morgane et donc j'ai assisté au vernissage de l'exposition. Et déjà, de rentrer dans ce musée, c'est assez incroyable parce que c'est... Bon, on a cette bâtisse, mais on n'imagine pas la grandeur du musée, justement, avec ces grandes pièces, certaines rénovées, d'autres non. Et puis, donc,
C'est en cours.
Voilà, on parcourt pièce par pièce.
Je crois qu'il y a même des costumes qui servent à des films.
C'est fort possible.
Oui, des situations.
Je pense que oui, il y a des objets qui permettent de réaliser des films.
D'époque.
D'époque, oui, bien sûr.
Parce que ce qu'ils ont comme...
C'est un véritable trésor.
C'est vraiment exceptionnel. Ouais,
tout à fait.
C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont. Il faut absolument y aller, quoi.
Et alors
je sais qu'il est ouvert ou pas encore pour les
soirées? Oui,
il est ouvert, en fait, les vendredis et samedis après-midi.
D'accord.
Parce que, bien sûr, s'opèrent des phases...
Je crois qu'ils font des visites guidées.
Tout à fait. Tout à fait,
partir de 15h.
Tout à fait.
Vous voyez, je peux travailler quand même.
Et l'exposition, donc, est
inclus.
Et
on voit l'exposition en même temps.
Bien sûr, ouais, tout à fait.
D'accord.
Exactement.
Et donc, regardez, c'est, je crois... un coût modique de 10 euros ou un truc comme ça.
Tout à fait, exactement.
Il connaît tout, il connaît même le prix.
Ouais. C'est ça.
Il a très bien bossé. Ah,
je vais y aller, alors je m'intéresse au prix.
C'est pas la peine de les inviter, Richard. Tu aurais pu faire l'émission.
Mais c'est ce qu'on apprécie, évidemment, c'est de recevoir nos invités.
Bravo,
de,
Richard.
Et d'avoir bossé les dossiers en amont. C'est un musée, quand même, il me semble, je crois, qui est ouvert depuis 1928. Donc c'est quand même quelque chose qui compte.
On n'est pas loin des 100 ans.
On n'est pas loin des 100 ans, exactement, dans 3 ans. Parle-nous un petit peu de cette connexion. Vous, en tant qu'amoureux de la Provence, pourquoi avoir ciblé le musée, ou en tout cas, comment est venue cette connexion avec le conservateur du musée? S'il nous écoute, on le salue, s'il est toujours sur la route, parce qu'a priori, les bouchons sont bien présents. Voilà, parlons un petit peu de cette affection, Morgane, et puis de votre travail. Comment on peut vous identifier artistiquement parlant? Je sais que c'est une question, on pourrait débattre pendant 4 heures. Hein. L'ADN artistique, c'est quand même délicat. Mais comment on peut vous identifier? Voilà, quelles sont vos thématiques?
Allez.
Ouais, au-delà du talent, parce que ça on le voit, on le sait. mais voilà.
Tout d'abord, c'est une rencontre humaine, en fait, finalement. Et c'est ce qui est intéressant, en fait. Dans chaque rencontre, c'est là où ça enrichit l'esprit des personnes qui se retrouvent face à face. Et Alexandre m'a ouvert la porte de ce musée avec beaucoup de passion et de connaissances. Et à partir de là, je me suis dit, ah oui, il y a peut-être un travail à faire. Et comment articuler ça pour redonner vie à ce lieu-là qui est quand même emblématique pour les Provençaux, peut-être un peu moins pour les Marseillais, par mes connaissances peut-être. Mais
Jusqu'à présent. On est sur Radio Galère.
Là maintenant, on est sur Radio Galère. L'impact médiatique va être présent. Non, plaisante.
Non, mais c'est la vérité,
c'est blague,
bien
mais,
sûr.
Même moi, au tout départ, je ne suggérais pas qu'il y avait ce musée à Château-Gombert. Et puis, ouais, c'était une vraie découverte.
Qui c'est qui a fait le premier pas? C'est vous ou c'est le...
C'est moi qui ai fait le premier pas.
Quand même,
pas.
Voilà. Génial. Voilà.
C'est on invite toutes les personnes à être curieuses. Bon, moi, je sais que je vais dans des tas d'endroits où je ne serai jamais allé. Et j'arrive à pousser des portes. Et là, c'est comme ça que j'ai connu. Parce que, effectivement... il n'est pas si facile d'accès, il est un peu caché, il est sur Marseille, mais un petit peu en périphérie. Mais enfin, il y a un parking, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens amènent leurs enfants regarder quelque chose de... Bon, comme vous dites, c'est le deuxième grand musée provençal. Je pense que ça mérite d'y aller une heure ou deux, quoi, au plus.
C'est surtout pour l'exposition photo aussi qu'il faut y aller, parce que...
Exactement.
Voilà, il faut nous en parler, voilà.
Ça reflète aussi ce qu'il y a dedans.
Exactement. Ouais.
On peut dire un mot là-dessus, sortie de réserve. Alors on va savoir, il y a toujours un lien de cause à effet, en tout cas.
Il y a un jeu de mots.
Voilà, ouais, il y a un petit jeu de mots. Qu'est-ce que ça veut dire, sortie de réserve,
Morgane ? Je suis quand même une personne assez timide, et pour le coup, on s'est dit... Et on peut jouer aussi sur la sortie de sa propre réserve, mais également on peut jouer aussi sur la sortie de la réserve des collections qui sont en train de sortir.
Et puis il y a la réserve de la Camargue aussi, qui est pas loin aussi.
Exactement.
Il y a beaucoup de réserves par là.
Intéressant.
Mais la plus importante, la plus dure pour moi en tout cas, c'est sortir de sa propre réserve, quoi.
Bah oui, mais
ce qui est fait, c'est qui est fait.
Vous faites bien de l'évoquer. Donc là, on cible évidemment. Le musée provençal. Un mot avec Aurine, puisqu'elle est là, alors qui aurait dû, dans tous les cas, être là physiquement, moins vocalement, et on est ravis de la voir, puisqu'elle fait le très bon complément et le très bon trait d'union entre Morgane Miroccolo, qui est avec nous en tant que photographe auteur, et vous, Corinne. Un mot aussi, Corinne, sur... tout à l'heure, on parlait de ce qu'elle dégage comme émotion, mais aussi sur le volet provençal. Est-ce que vous reconnaissez, sur le volet provençal, qu'est-ce que ça vous inspire, comment vous avez apprécié le travail de Morgane? Alors, évidemment, il est à côté de vous, on ne peut pas en dire du mal, mais d'ailleurs, ce n'est pas le but.
Mais dès qu'il sera sorti, on va commencer.
Non, mais sinon, on ne serait pas là. Non, mais sinon, on serait pas là autour de cette table si on n'avait pas apprécié le travail, Corinne.
Oui, non, c'est une très belle exposition, parce que ça, déjà, ça met du vivant dans ce musée, même si c'est en photo, quoi. Et oui. De voir ces Arlésiennes et ces Marseillaises en costume traditionnel, ça inclut vraiment le vivant dans ce petit musée. Il n'est pas petit en plus.
Dans ce beau musée
provençal. Et en plus, c'est dans la salle qui s'appelle la salle Renaissance, donc ça veut absolument...
Ah oui.
Enfin, ça a une portée encore plus symbolique. Et c'est vrai que de voir ces... un peu ces belles endormies, quoi, parce qu'elles sont, elles sont un peu figées, quoi. C'est super intéressant. Et c'est vrai que humainement, on se sent aussi attiré à la fois par ces femmes et par cette culture.
Alors, il n'y a pas que des femmes aussi dans ces photos. Non, il y a aussi des hommes provençaux, je suppose, en tenue... folklorique d'antan, peut-être, ou... Non,
non, non, il y a
que des femmes.
Des
alors pourquoi ce choix, tiens, alors, justement?
Il y en a une qui est costumée en marseillaise et qui est quand même origine de Marseille et qui a été demoiselle d'honneur de la reine d'Arles. Exactement, qui est quand même encore un monde dans un monde. Et voilà, elle fait le trait d'union, en fait, entre deux territoires qui, avant, étaient reliés et qui, je ne sais pas pourquoi, mais se regardent un peu de loin maintenant, mais partagent les mêmes choses et le même amour pour cette Provence. Donc voilà, c'était vraiment relier les deux côtés
du territoire.
Du territoire. On n'est pas si loin que ça, finalement.
C'est juste à côté.
Une petite précision sur les tarifs. Pour les moins de 12 ans, ce n'est que 5 euros.
C'est ça.
Donc j'ai oublié de le dire, c'est très important.
C'est très accessible, ça c'est important de le rappeler, oui.
À des prix relativement réduits. Est-ce que vous avez eu du mal à faire vos photos dans un dédale obscur, peut-être? Est-ce que vous avez eu un éclairage particulier à mettre en place?
Alors... Je vous avoue que ça n'a pas été facile, ouais, au départ. Hein. Bien vu. Mais en amenant un peu d'éclairage, oui, on a réussi à faire un travail assez obscur et à la fois lumineux. Donc il y a aussi cette ambiance
dans le musée. J'ai vu vos photos qui sont resplendissantes. Et quand on va visiter le musée, bon, il n'y a pas cet éclairage tout à fait. Hein,
non, voilà. Il a fallu en apporter un petit
donc
peu.
Donc vous avez dû...
batailler un peu.
Batailler, hein, c'est ça.
Mais ça, c'est l'art du photographe, c'est normal.
Il faut vraiment travailler l'éclairage cas par cas. Hein,
ouais, c'est vrai.
Enfin, je crois.
Mais c'était hyper intéressant de travailler de cette manière-là.
Combien de photos on peut voir, justement,
actuellement, il y a une vingtaine de photos exposées.
Une vingtaine de toutes dimensions, je suppose.
De toutes dimensions, oui. Il y a des très grandes, parce que la pièce est assez volumineuse. Il faut savoir que... En hauteur, elle fait presque 6,30 m au sommet. Au donc, sommet. Ce qui est quand même assez imposant assez important, ouais. Et important.
Il y a de quoi faire, comme dirait l'autre.
Ah, il y a de quoi faire. Ouais. Et en fait, l'installation, parce que c'est une vraie installation, il y a des grandes images, mais il y a aussi tous les objets qu'on s'est servis pour pouvoir réaliser ces photos-là. Mais il y a aussi le mobilier qui est actuel, c'est-à-dire toutes ces caisses de conservation en plastique qu'on pourrait retrouver. Le papier bulle aussi est très important, enfin très opulent dans l'installation, et du papier de soie, on a beaucoup travaillé avec ça en fait finalement.
C'est intéressant de jouer aussi là-dessus, c'est-à-dire que
côté un peu moderne et traditionnel.
Ouais, et puis la photo est présente, mais il y a une histoire avant. Et il y a un cheminement, et vous amenez ce cheminement, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant sur le plan de l'artistique, mais de l'humain aussi, parce que ça prouve aussi la proximité.
Ça prouve la proximité aussi avec les filles, parce que finalement, ça fait longtemps que je travaille avec certaines, et c'est vrai qu'au tout départ, elles n'ont pas l'habitude de se retrouver dans des conditions pareilles, et pour le coup, on a un peu déstructuré, pas cassé les codes, mais un peu déstructuré les codes, et en se disant... ça pourrait être pas mal, et elles ont adhéré totalement, et en plus elles sont vraiment pour le coup bien amusées.
C'est comme pour les peintres, c'est des modèles que vous recrutez, ou comment ça se passe pour trouver ces filles là justement?
Non, c'est surtout des connaissances depuis, voilà, c'est un travail de longue haleine, ça fait déjà presque 10 ans ou 15 ans que je travaille avec certaines, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile après de pouvoir les amener sur d'autres territoires.
Elles ont été partantes d'entrée pour jouer ce jeu, en quelque sorte.
Totalement, parce qu'il y a aussi la découverte. Nous, c'est vrai que du côté arlésien, on ne voit pas trop ce musée-là. Et c'est vrai que quand on parle du musée provençal, on se dit, mais c'est quoi, c'est où? Et en fait, il y a ce... le fait que... C'est inconnu, quoi. On a envie d'aller voir ce musée. Et en fait, elles sont totalement...
Parce qu'elles aussi, elles ont découvert ce musée aussi.
Également.
Exactement.
Ouais.
Alors, si on veut acquérir ces tableaux, c'est possible ou
c'est photo.
Oui, c'est possible, ouais, tout à fait. Ouais, c'est possible.
D'accord. Donc, je suppose que selon la grandeur, selon les tarifications, c'est peut-être différent.
Elles sont différentes et elles sont toutes numérotées à 3 exemplaires.
Donc, chacun peut aller effectivement envisager de mettre ça dans
son salon,
dans son appartement,
sa pièce, dans son salon, en se maniait si on a des hauteurs.
Il y a différents modèles.
Non, mais l'avantage, c'est que c'est souvent. Alors, ça aussi, c'est extrêmement subtil. C'est que en règle générale, bon, je suis pas spécialiste, mais les photographes justement, ils jouent un petit peu sur la palette d'avoir des petits modèles, des modèles standards et des grands modèles. On avait fait une exposition. Je perds le nom de l'exposition. J'en suis désolé, bon, ça va me revenir, avec le photographe qui était venu, tu te rappelles, il y a quelques mois, mon cher Christian, tu vas peut-être m'aider, et qui jouait là aussi là-dessus, sur les différents...
Il y en a beaucoup de photographes qui viennent
oui,
ici.
Oui, mais c'était Voyage déraciné.
Ah, oui, voilà, oui.
Voyage déraciné, si je ne dis pas de bêtises, avec un livre qu'il nous avait laissé d'ailleurs.
Je vois qui tu veux.
Voilà, dire. Et c'était un collectionneur qui était venu. Et c'est vrai que ça aussi, c'est intéressant que nous de montrer que la palette est large, et vous pouvez vous rapprocher de Morgane Miracolo en tant que photographe auteur. Là, évidemment, on cible le musée provençal. On le rappelle, donc, ça a démarré il y a 10 jours et jusqu'au 15 mars. Donc, on a 2 mois, en tout cas, où on peut apprécier vos talents et votre expo. On a parlé des tarifs. On peut rappeler, puisqu'on me l'a juste envoyé, vous avez dit musée provençal à Château-Gombert. Est-ce qu'on peut rappeler l'adresse? Est-ce que Corinne... parce que je l'ai vu quelque part, ou est-ce qu'on peut la situer un petit peu, situer géographiquement, allez, à la Marseillaise. Alors, un petit peu.
Enfin, déjà, je peux vous dire l'adresse.
Ah, magnifique.
C'est déjà
magnifique.
Pas mal.
C'est 5 places des Héros, et c'est vraiment au centre du village de Château-Gombert.
Les Héros, il y a un parking.
Il y a un petit parking. Et puis
Richard est très attaché au parking.
À côté, le parking de la Poste qui est pas loin.
C'est ce que j'allais dire.
Et l'église, exactement.
Un peu. Hein.
Oui, oui. Donc, c'est fléché musée du terroir. Je ne sais pas pourquoi, mais... en tout cas, c'est fléché.
Ok, voilà. Mais voilà, bon, comme ça, vous l'avez annoncé. Un autre mot, peut-être, Corinne, il nous reste 9 minutes sur les ondes de Radio Galère. On est toujours en direct avec Morgane Miracolo, Corinne Laurent, pour parler de l'exposition Sortie de réserve au musée provençal. C'est également, je ne sais plus, je ne dis pas de bêtises, oui, évidemment, il y a l'attachement avec Moriès, puisque c'était, dans votre ville, c'était une obligation qui puisse avoir cette exposition. Et Comment ça fonctionne d'ailleurs avec, avec votre commune, voilà. Dites-nous un petit peu aussi, là on est sur le projet, j'allais dire culturel et patrimonial du musée provençal à Château-Gombert, mais on peut voir votre travail aussi est relayé sur d'autres communes, en l'occurrence Mauriès.
Oui, tout à fait, parce que en fait l'exposition, pour le coup, là, c'est la deuxième partie. La première partie était à Mauriès, à la galerie Stefanini,
oui.
Qui est un artiste marseillais qui est venu s'installer à Mauriès. Que je remercie d'ailleurs. Avec la commune, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille ensemble et on avait fait ce travail sur les personnes âgées du village. On a fait un livre qui a été édité aussi avec un Marseillais. Finalement, j'ai des attaches à Marseille.
Ah ben la Provence, Provence est large, hein, vous savez, de Arles à... Allez, presque
à la Ciotat. À Dunkerque.
Arles à la Ciotat. Quoi que même, non, on peut même jouer sur le. Enfin, on dit la Provence, c'est pas que les Bouches-du-Rhône. Hein.
Non, bien sûr, c'est beaucoup plus large. Mais oui, il y avait voilà, ce travail avec les personnes âgées de Mauriès qui me semblait très important de réaliser il y a maintenant 4 ou 5 années. Et ça me tenait vraiment à cœur de le faire parce que c'est un pan de notre culture et de notre savoir, en fait, finalement, qui allait disparaître. Et l'idée, c'était de. Justement, mettre tout ce qui m'avait légué dans un livre pour les générations qui arrivent. Donc,
là, vous avez choisi carrément un autre style de personnages et des photos, plus ou moins noir et blanc, si j'ai bien vu.
Non, pour le coup, c'est tout en couleur. Mais,
c'est tout en couleur.
C'est intéressant ce que tu dis, Richard, mais parce qu'il a bossé le dossier. Ouais, c'est justement
quand
on a...
Ça aurait pu être aussi.
C'est parce que c'est le cas, notamment avec Provence Rugby, parce que voilà, regardez votre travail. Oui. Et je trouve que d'ailleurs, sont super bien faites ces photos, puisque vous avez réalisé et capturé, donc, on va dire, l'essence brute, c'est ce qui est indiqué d'ailleurs, de l'histoire qui lie les hommes au terrain avec Provence Rugby, qui est. Qui joue la montée en top 14, ce sera peut-être difficile, mais en tout cas qui...
Non, il faut y croire.
Oui, exactement, vous avez raison, Morgan.
Ça va marcher.
Vous avez raison, mais ils sont pas loin, depuis quelques petites années. Mais là aussi, donc voilà, votre travail, capable de parler des traditions provençales. Tout à l'heure, on évoquait ce qui se passait à Mauriès avec Michel, vous allez m'aider, le nom de famille.
Stefanini.
Exactement, voilà, qui est un sculpteur plasticien, enfin, il y a tout ce volet-là. Et là aussi, donc, quand on va sur votre site, et j'invite auditeurs, auditrices, vous tapez Morgan Miracolo, comme ça s'écrit, et vous avez donc tout le travail qui est relayé, et en effet, on peut voir différents projets, notamment, alors, on a vu le Provence Rugby, mais il y a d'autres éléments qui vous caractérisent. On parle de l'ombre noire. Qu'est-ce que c'est l'ombre noire, un petit peu.
C'est le rapport au taureau, en fait.
Et oui, évidemment, oui, j'avais saisi. Donc, on est beaucoup dans le noir et blanc sur cela.
Oui, sur ce travail-là, ouais, il y a beaucoup de noir et blanc. C'est quelque chose avec lequel j'ai démarré il y a maintenant une vingtaine d'années.
C'est magnifique, le noir et blanc.
J'ai travaillé beaucoup en pellicule noir et blanc et j'ai appris.
En pellicule
Oui, j'ai été formé à la pellicule.
Mais les photographes sont très attachés au noir et blanc, hein, c'est ça.
Ouais,
on est bien d'accord.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, pourquoi d'ailleurs?
Il faut demander à
un photographe. Justement, je vais demander. Non, mais nous, on a des émotions sur noir et blanc. Alors souvent, il y a le côté un peu, vous allez dire si je me trompe.
La nostalgie peut-être.
La nostalgie, parfois la tristesse aussi, parce qu'on sait que le noir et blanc, je dis bien parfois, mais peut-être je me trompe. Mais il amène aussi un côté, un côté noir, c'est une évidence.
Mais c'est pas tant mélancolique que ça, finalement.
Mais c'est pas tant mélancolique que ça, voilà.
Le noir et blanc.
Qu'est-ce qui fait que... non, mais je trouve que c'est extrêmement inspirant. Mais vous, en tant que photographe, le noir et blanc, vous le caractérisez comment? Vous l'identifiez comment?
Par la vision, en fait, finalement. On se dit, mais ah oui, ça, c'est noir et blanc. Enfin, c'est quand même assez étonnant, mais c'est... Des fois, je vois un noir et blanc presque.
Ah ouais, c'est fou ça.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ressortent dans le noir et blanc qu'on peut pas sortir avec la couleur.
On peut pas retrouver
la couleur. Parce que la couleur peut-être fait disparaître certaines émotions qu'il y a dans le noir et blanc.
Non, c'est fort possible, ouais. Et d'ailleurs, la couleur pour moi c'est très compliqué. Ouais.
Ah ouais, c'est et pourtant, la vie est en couleur. On est d'accord que le noir et blanc, à part les chats a priori, mais qui verraient a priori en noir et blanc. Non, mais je trouve ça vraiment super intéressant et super fascinant même, le noir et blanc.
Ouais,
je trouve que c'est. Que c'est fascinant. Bon, pour le coup, au musée provençal, c'est des couleurs.
Il n'y aura pas de noir et blanc.
Ne vous trompez pas, auditeurs, auditrices, si vous dites ils ont parlé du noir et blanc, mais on est allé
dans cette exposition.
Voilà, c'est pas le cas. Il nous reste 4 minutes sur les ondes de Radio Galère, toujours en direct pour parler de sortie de réserve avec Morgane Miracolo et Corinne Laurent, Christian Richard évidemment, des questions. On va ensuite enchaîner derrière avec nos prochains invités, mais on profite des dernières minutes. Corinne, jusqu'au n'hésitez bout. Pas à compléter les propos évidemment quand vous le souhaitez.
Corinne, oui, dites-nous quelque chose, Christian. Un petit peu. Alors c'est vous qui, c'est votre travail ça.
Oui, oui, mais c'est
faut poser les questions, mon cher Christian.
Non mais c'est tout, je n'ai pas besoin de poser les questions.
Je sais tout. Non, c'est vraiment une exposition qui est... Enfin, qui est à découvrir en même temps que le musée. Et le point fort, c'est que quand on visite le musée, l'exposition est incluse dedans. Donc,
si on fait une pierre deux coups, finalement. On visite le musée, on voit les photos admirables qui ont été faites sur ces jeunes femmes provençales. Donc, vraiment, tout nous amène à aller à cette exposition et voir ce musée en même temps.
C'est ça, on voit à la fois les salles rénovées du musée, et ensuite, cette salle Renaissance qui est immense, qui est très haute, et dans laquelle il y a les photos de Morgane, à la fois des grands formats au détour d'une alcôve, au milieu d'objets, puis des petits formats qui sont un peu disséminés dans une malle ou contre une caisse, enfin bon, au milieu de papier bulle. Donc,
Et la visite découverte à partir de 15h est incluse aussi. Donc, profitez d'être à l'heure pour partir dans cette visite.
Et votre entrée.
Tout à fait. Non, et puis c'est très bien fait. C'est vraiment un lieu à découvrir
avant tout. Et après, il y a la
pause
musicale qui permet...
C'est vraiment un lieu à découvrir avant tout, parce qu'on ne sait pas forcément où il est, ce que c'est. Et puis, il y a cette expo au milieu, quoi.
Qui est finalement une vraie invitation au voyage dans un monde englouti, finalement.
Dans un monde englouti.
Alors, juste deux points là sur Bruyès. Bon, c'est une galerie permanente où vous êtes
Oui, c'est un atelier galerie, en fait, finalement, qui appartient vraiment à Michel. Et pour le coup, il invite de temps en temps.
Donc, c'est votre lieu, on peut visiter tous les jours là-bas.
Alors, oui, on peut tout.
C'est votre repère, c'est ça.
C'est mon repère, ouais.
C'est bien de savoir aussi.
Les travaux ne sont pas tous les jours.
C'est bien de savoir qu'on peut également retrouver, je présume, la partie de l'exposition.
Léa, j'en profite sur les contextes sonores, s'il vous plaît, les téléphones, vous pouvez les garder.
Non, on peut pas retrouver justement pour l'instant. Non, parce que le premier volet, c'est terminé. Et voilà, là, on est sur le deuxième volet.
D'accord. Donc, mais votre œuvre a parti de tous les pays. Comment
en fait,
vous avez organisé
mon travail, ouais, j'ai un petit atelier, en fait, à côté de chez moi, que je ne dévoile pas beaucoup, mais qui est ouvert.
Je suis attaché à ça. Alors, du coup,
je vais
faire passer un coup de fil.
Demain, vous allez voir 1000 personnes.
Tac. Donc, est-ce que c'est Clarisse qui est présente?
Bon, en tout cas, alors, est-ce que vous avez des nouvelles des possibles réouvertures, restaurants et hôtels?
Allez, on est bon sur la présentation.
Ah non, moi là, je ne saurais pas vous dire.
Moi non plus, je ne saurais pas vous dire pour le coup.
Donc, ça sera la surprise.
C'est dommage, vraiment. Hein. L'ensemble était.
Ouais, ça va revivre. Enfin, il ne faut pas.
Petit à petit, je pense.
Mais ça fait longtemps qu'ils sont fermés.
Oui, ça fait un petit moment. Mais...
Oui, c'est un musée quasiment centenaire, donc il y a beaucoup de choses à faire quand même.
Bon, le restaurant peut-être plus facilement, quoi. Bon, l'hôtel, oui. Bon, oui.
Disons que c'est une avant-première avant son ouverture officielle, peut-être, votre exposition, c'est
ouais,
ça.
Ça permet de resituer un peu le musée et de se dire, ah oui, il y a ce musée-là qui existe à Marseille.
De le relancer, puisqu'il était à l'arrêt un petit peu pendant un certain temps. Suite à la rénovation, qui va se terminer.
Qui va se terminer
quand même.
On ne sait pas quand.
On ne sait pas quoi. Il manque des fonds pour la rénovation. Comment ça se passe alors que, pourquoi ça traîne, tiens, justement.
Peut-être Alexandre pour une zone un peu plus.
Il n'est pas là.
Donc du coup, je ne peux pas. Je peux pas répondre
en tout cas,
à sa place.
Vous êtes un facteur d'accélération pour la rénovation. Le fait d'exposer ces superbes photos dans ce musée, ça va justement accélérer le.
Et donner un petit coup de boost.
Quel effet ça vous avait fait quand vous êtes allé pour la première fois?
Waouh. C'est waouh le premier coup.
Non, mais c'est sûr. C'est sûr que ça m'avait fait la même chose. J'avais été très surpris par l'ensemble de.
On fait un vrai retour dans le temps, en fait. Dès qu'on pousse la porte, c'est tout de suite un autre monde.
On change de siècle, en quelque sorte.
Tout à fait. On se chasse totalement de siècle. Et ça, c'est.
Moi, j'avais eu beaucoup de peine lorsque, dans les années antérieures, il y avait un loueur de costumes qui s'appelait Picpus. Et Picpus avait tous les costumes de théâtre depuis 50 à 100 ans.
Vous voyez.
Et c'était, chez lui, c'était un paradis. Moi, j'ai eu loué des costumes pour des fêtes avec des costumes de théâtre, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme là-bas, quoi, je veux dire. C'est la même identité de richesse exposée. Voilà. Donc, les gens, allez là-bas, regardez ce qui reste avant que, malheureusement, un jour peut-être, ils disparaissent, et profitez de l'exposition pour prendre un tableau et l'accrocher en permanence.
C'est pas un tableau, c'est des photos. Oui. Mais on peut accrocher comme un tableau. Si
on
une
peut
photo.
Accrocher comme un tableau.
Mais pourquoi pas, bien sûr. Oui. Je pense que vous allez dédicacer aussi les photos qui vont être vendues, c'est ça. Ça, c'est très important parce que...
Elles sont toutes numérotées.
Nous, numérotées, dédicacées, donc il faut se dépêcher d'aller voir ça.
Et d'essayer d'investir sur l'avenir.
C'est un placement, les photos. Si quand on a un très bon photographe, c'est une œuvre d'art. Il faut aussi placer dans les photos quand on place dans les tableaux. On n'y pense pas, mais c'est vrai. Hein. Avec un grand photographe comme
c'est important.
On peut dire que vous êtes un photographe provençal, comme on dit un peintre provençal. Ça existe aussi. On peut définir
comme ça. Je pense que ça doit exister, ouais, comme un peintre provençal. En tout cas, c'est la suite. Quoi, voilà.
C'est la suite. Donc, on peut vous qualifier de photographe provençal. C'est pas péjoratif.
Non, c'est pas péjoratif.
Ok. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de notre interview. On approche du bout.
Des questions. Il nous reste deux petites minutes.
Profitez-en.
Alors, de nous rappeler l'adresse et tout.
Alors, c'est au Musée Provençal, 5 Place des Héros, à Château-Gombert. C'est une. Enfin, on le voit
alors,
pas
pour l'instant, c'est ouvert. Pour l'instant, c'est ouvert. Deux jours.
C'est ouvert. Deux jours, les vendredis et samedis, à partir de 15h, avec des visites
avec
guidées.
Avec des visites guidées.
Voilà. Et dans cette visite guidée, l'exposition
de photos
est incluse.
Et on peut très bien aussi y aller en groupe à d'autres moments.
Voilà. C'est vrai qu'on appelle le musée l'éducation scolaire, etc., qui veulent faire visiter les élèves, à prendre contact avec
les... Ils ont reçu leur premier scolaire, là, en début d'année.
Voilà. Donc, y amener les élèves aussi, s'ils le souhaitent. Ils seront le bienvenu.
Tout à fait.
Je crois qu'il y a peut-être une tarification qui est moins élevée ou j'en sais rien.
Certainement. Pour les groupes scolaires, il y a toujours des aménagements.
Il faut se renseigner auprès du musée pour les groupes.
Est-ce qu'ils pourront vous rencontrer en tant que photographe, artiste photographe et discuter un petit peu avec vous pour voir comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est un artiste photographe? Comment vous opérez? C'est possible, ça?
Pour le moment, non, on n'y a pas réfléchi, mais ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler.
Il faut sortir de sa réserve. Attention.
C'est vrai que sur la friche, il y a un bon photographe installé qui a son atelier ici.
C'est vrai.
Tu veux qu'il vienne à la friche, c'est ça?
Pardon?
Tu veux qu'il vienne à la friche?
Non, mais les échanges,
je suis pas contre. Hein.
Professionnels. Il m'a fait visiter son atelier, c'est tout à fait particulier.
Sa propre technique. Mais...
Chacun a ses techniques, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et bon, il s'en va un petit peu dans tous les pays aussi. Il est connu aussi. Si un jour ça vous intéresse, tapez photographe ici, vous le trouvez facilement. Et lui peut-être serait intéressé de savoir qu'il y a une exposition
à Château-Gombert.
Et bien voilà, le lien est fait. Bravo Richard, tu as fait un bon entremetteur.
Ben non, c'est quand c'est beau, il faut le dire. Quoi. Bon.
Tu l'as dit.
Il ne faut pas hésiter. Je crois que là, on vous souhaite une bonne expo.
Merci.
Très bonne expo.
Hein, que tout se passe correctement avec beaucoup de gens. Vous avez déjà des contacts sur Château-Gombert. Est-ce que vous avez pris des contacts avec le c'est le Ridoulet, c'est ça le
Roudoulet. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire.
Ils sont pas loin, il faut y aller.
Oui, bien sûr.
Ils font des danses provençales.
Tout à fait.
Exactement.
Mais aussi, il y a une personne qui nous a prêté un costume, un Marseillais, qui est de ce groupe folklorique.
Génial.
Le lien est fait, donc.
Très bien.
Merci beaucoup, en tout cas.
En tout cas, merci mille fois d'avoir été présent ce matin, Morgane Miracolo. C'était un vrai plaisir de vous avoir.
Ben merci, c'est un plaisir partagé.
Ben écoutez, merci mille fois. Merci à Corinne d'avoir joué le trait d'union et en plus le...
Au pied levé.
À la volée.
À la volée, évidemment. Et je le rappelle, on invitera le conservateur du musée, Alexandre Mahut, quand on pourra cibler un créneau. Là, évidemment, pour le coup... Il est quand même parti une heure à l'avance et il était...
Mais il nous a écoutés dans sa voiture, sans doute.
Probablement, probablement. Si ce n'est pas le cas, on lui enverra le podcast et on l'invitera aller courant mars, puisqu'il aura d'autres actualités aussi, il pourra parler de son musée, il pourra parler de différents projets culturels qui gravitent autour de ce musée. Pause musicale sur les ondes de Radio Galère. Oui, mon
juste,
cher Richard.
N'hésitez pas à regarder sur le site Morgan Miracolo, M-I-C-R-O-C-O-L-O, et vous verrez toutes les, je pense, pas mal de réalisations.
Exactement, voilà. Il est attaché de presse
couleur
bénévole.
Et noir et blanc aussi.
Il y a les deux.
Attaché de presse bénévole, c'est Richard qui est avec nous sur les ondes de Radio Galère. Pause musicale sur les ondes de Galère, et on revient juste après ça, évidemment. Merci, au plaisir.
Bon, j'espère qu'on n'a pas trop dit de bêtises.
Without you and I, no sound when I
de Radio Galère. J'espère que vous m'entendez évidemment sur les ondes de Galère, bande FM 88.4. Oui, mon cher Richard, oui.
Eh bien, c'est lui.
Parfait. On peut pas faire mieux. On a quelques soucis avec la table de mixage. On doit s'adapter. Voilà, ça fait partie du jeu évidemment aussi sur les ondes de Radio Galère. Je reçois quelques textos aussi qui vont dans ce sens-là. On appréhende une nouvelle table de mixage, donc il y a quelques réglages à faire. On est en direct sur les ondes de Radio Galère, www.radiogalère.org. On enchaîne avec un dossier extrêmement attachant, qu'on connaît déjà. On est ravis d'accueillir ce matin, on va parler du festival des rencontres cinématographiques des droits humains en Provence. Voilà, ça démarre la semaine prochaine, vendredi 31 janvier, et pendant près de 5 semaines jusqu'au 6 mars. On va évoquer évidemment tout ce volet-là. On a le plaisir de recevoir ce matin Sonia Velli, qui est avec nous, coordinatrice référente des séances scolaires. Elle est accompagnée de Marie-Laure Laurent, qui est bénévole au Secours catholique et animatrice scolaire et organisatrice des séances grand public, et Clarisse, qui est en volontaire civique au sein de la structure. Bonjour à vous, dans un premier temps. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Voilà, on est ravis de vous accueillir. Bonjour Clarisse.
Bonjour.
Voilà, et bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est une deuxième, puisque vous étiez déjà venue l'année dernière.
C'est une habituée maintenant, Sonia, c'est
voilà,
ça.
Sonia et Marie-Laure deviennent des habitués. À partir de deux, on devient des habitués sur les ondes de Galère. Ça fonctionne comme ça, sachez-le, mesdames. Et donc, on va donc évoquer avec vous ce festival extrêmement intéressant, extrêmement, j'allais dire, précieux, puisqu'on va parler des droits humains. C'est quand même important de le rappeler. Ça démarre donc, je le rappelle, le 31 janvier. Il y a beaucoup de choses à dire sur la programmation cinématographique pour le grand public. On va parler aussi, puisque je l'ai évoqué en disant que ça démarre le 31 janvier, mais Marie-Laure me l'avait dit en off, ça a déjà démarré pour les scolaires. Donc janvier, février et mars, on a droit en tout cas aux rencontres cinématographiques des droits de l'homme en Provence. Des assos, évidemment, sont partenaires. La CIMAT, qu'on connaît très bien, Jean-Pierre Cavalier, Amnesty International, Terre Solidaire, Secours Catholique, la Ligue des Droits de l'Homme, qu'on salue évidemment, et la CAT. D'ailleurs, si vous avez les coordonnées, je serais ravi d'accueillir des assos qu'on n'a pas encore accueillis sur les zones de Galère, notamment Terre Solidaire et la CAT, qui font un travail remarquable. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Un volet, on parle du volet scolaire, on parle du volet grand public. Déjà, est-ce qu'on peut faire ce distinguo, ça va ensemble, et nous indiquer un petit peu les grandes lignes, qui a donc un axe sur le grand public et un axe sur le volet scolaire. Peut-être Sonia ou Marie-Laure derrière.
Oui, alors en fait on est un collectif qui existe depuis 15 ans.
Restez bien face au micro et, s'il vous plaît,
oui.
Parfait, merci.
Oui, et nous proposons des séances de ciné-débat. Alors au départ, c'était effectivement dans les cinémas, donc pour le grand public, hein, du département, donc Marseille, Aix, Istres, Château-Renard. Et on a développé, au bout de quelques années, un volet scolaire aussi. Et on s'adresse également donc aux collégiens, aux lycéens, et même un peu plus, enfin les jeunes étudiants, pour leur proposer donc des séances, toujours sur les droits de l'homme, donc quelques séances avec des thématiques différentes et des animateurs. Donc on a une vingtaine d'animateurs provenant des 6 associations qui nous caractérisent, qui sillonnent les collèges et lycées du département et qui vont proposer un film et inviter au plaidoyer, discuter avec les lycéens pour faire un appel à la solidarité et à éveiller les consciences dans ce milieu-là.
Alors justement, Sonia, vous l'évoquez sur notamment les droits humains, d'éveiller les consciences, la défense de ces droits-là sont quand même des thèmes qui sont extrêmement évocateurs, extrêmement sociétals et qui posent entre guillemets problème, c'est-à-dire que on estime que c'est rarement respecté. On a souvent reçu SOS Méditerranée, par exemple, sur les zones de galère, mais pas que. Hein. On parle de toutes les structures qui vivent, Fondation Abbé Pierre, bon, même si aujourd'hui... L'abbé Pierre n'est pas très à la mode, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens
on
qui...
On fera une autre appellation.
C'est un autre problème d'ordre idéologique et d'ordre humain. Mais en tout cas, on sait que les droits sont parfois bafoués. Et justement, vous permettez en tout cas cet échange, puisqu'on estime que ces rencontres cinématographiques des droits humains en Provence, les RCDHP, c'est vraiment un lieu d'échange de réflexion sur les enjeux contemporains et sur la défense des droits. Ça, c'est un élément incontournable. Je m'adresse à vous trois, mesdames. Sonia, peut-être dans un premier temps.
Oui, oui, effectivement. Chaque année, on essaie de trouver des thématiques dans l'air du temps et proposer donc ce choix de programmation autour des droits de l'homme. Hein. On a pas mal de thèmes toujours sur ça peut être sur les migrants, sur l'apartheid. On parle aussi de la précarité. On parle des ententes illicites qu'on peut avoir entre les médias, les politiques. On parle de traumas, de guerre. Et des fois, des thèmes un peu plus proches des lycéens, des collégiens, comme les dangers du numérique.
Et les droits des femmes, harcèlement bien aussi. Entendu.
Les droits des femmes.
Droits de l'homme, pas oublier les droits des femmes.
Les droits des femmes. C'est vrai qu'on a un joli film d'animation cette année sur les droits des femmes qu'on a proposé aux scolaires. Et le harcèlement, tout à fait.
Ouais, voilà. Qui malheureusement, monnaie courante. Avant, on ne mettait pas un nom là-dessus. Et pourtant, c'est important de le rappeler. Évidemment, les thèmes sont très évocateurs. On évoquait en préambule, j'évoquais en préambule les différents partenariats. Marie-Laure Laurent, bénévole au Secours catholique. Parle-nous un petit peu justement de ces partenaires qui œuvrent, qui gravitent autour des rencontres cinématographiques. Parce que là aussi, pour parler droits humains, mais il était important d'avoir les associations présentes en ce sens-là, Marie-Laure.
Donc le Secours catholique qui a été fondé en 1946 par l'abbé Rodin,
conseil
à la
de la
fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui œuvre contre toutes les formes de pauvreté, aussi bien matérielle que morale, sans distinction de race, de religion, d'origine. Son slogan, c'est « Ensemble pour construire un monde juste et fraternel », dont la justice sociale, la fraternité, ce sont ses objectifs. Il y a la CIMAD, qui est comité intermouvement auprès des évacués, qui a été créé en 1939 par des associations de confession protestante, plutôt, liées au scoutisme. Et elle est devenue une association œcuménique. Elle apporte en particulier actuellement son soutien aux migrants, aux réfugiés, aux personnes demandeurs d'asile, par des permanences juridiques. Elle assiste également ces personnes dans les centres de rétention.
Exactement. Les fameux CRA ou les CRA, comme on les appelle, les centres de rétention administratifs.
Il y a Amnesty International, ouais, qui, elle, a été créée en 1961, qui est une ONG internationale.
Qui a une émission, d'ailleurs, chaque semaine sur les ondes de Radio Galère. Voilà.
Voilà. Elle milite, en particulier, pour la libération des prisonniers d'opinion, et elle défend le droit à la liberté d'expression en toutes circonstances.
Et on en a bien besoin, encore une fois.
Ouais. Il y a le CCFD Terre Solidaire, qui a été également créé en 1961, qui est la première ONG française de développement. Ses objectifs sont de soutenir des projets dans les pays en développement, en partenariat avec des associations locales, bien entendu. Ses objectifs, c'est que chaque homme puisse manger à sa faim, habiter un environnement sûr et vivre dignement de son travail. C'est le CCFD Terre Solidaire. La LDH, qui est la plus ancienne des associations, puisqu'elle a été créée en 1898.
La Ligue des droits de l'homme.
C'est bien de le rappeler. Alors nous, ça nous paraît
Oui, c'est la Ligue des droits de l'homme. Elle a été créée après l'affaire Dreyfus.
Oui.
Voilà. Et elle combat toutes les injustices, le racisme, le sexisme, l'antisémitisme et toute discrimination. Toujours la Ligue des droits de l'homme. Et enfin, ACAT, qui est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui a été créée, c'est la plus récente, en 1974. Elle se bat contre les traitements cruels, inhumains, dégradants dans les prisons, et elle milite pour l'abolition de la peine de mort.
On le rappelle sur le plan international, évidemment.
Sur le plan international.
Hein, forcément. En tout cas, merci d'avoir fait cet éclairage, Marie-Laure. Oui, Richard, je t'en
Allez,
prie.
Je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, donc, à savoir ce que vous faites au milieu scolaire. Alors, j'avais deux questions. La première, c'est ça s'adresse à des collégiens de quelle classe, de toutes les classes, comment vous faites, quelles sont les classes que vous choisissez.
Et la programmation, question, les rendez-vous,
C'est savoir quel est votre ressenti sur les élèves, quel est votre ressenti sur les élèves, sur ce qu'ils disent, ce qu'ils disent pas. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire?
Oui, alors en fait, chaque année, on se réunit au mois de juin pour faire une présélection de films. Donc on sélectionne entre 10 et 12 films sur des thématiques différentes qui sont souvent liées à chaque association. Et après, on envoie ça à tous les collèges, lycées du département.
Vous envoyez la sélection que vous avez faite, c'est ça.
OK. Voilà. Donc, on fonctionne beaucoup avec les professeurs documentalistes qui, après, transmettent le message aux profs enseignants. Et ils font leur propre sélection en fonction de leur programme scolaire ou des sujets qu'ils ont envie d'aborder. Et ils reviennent vers nous entre octobre et décembre pour nous donner leurs souhaits. Donc ils nous disent, voilà, on veut tel film, on a tel créneau de dispo. Et après, c'est...
Ça cible des classes ou un mélange d'élèves? Comment ça se passe, en
c'est
fait?
C'est tout public, bien
voilà.
sûr.
De la sixième...
Chaque être humain.
Voilà, à la terminale, et même voir, on touche aussi des BEP, des CAP dans certains lycées.
Donc c'est
la
palette au est niveau large. Volontaire que les élèves vont voir ça. Ou alors c'est le professeur qui décide?
C'est le professeur, voilà. Bien sûr, c'est en classe quand même.
Oui, c'est le professeur qui décide, qui choisit, qui décide.
Bien entendu, dans toutes les classes dans le monde entier, il doit y avoir des avis différents, des bâches très différents. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que c'est positif? Comment vous ressentez tout ça?
C'est très positif, c'est aussi un challenge parfois parce que...
On imagine, oui.
Et puis ils découvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas du tout.
Tout à fait. Et des fois, on a l'impression que c'est des thèmes qui vont tout de suite les révolter, les solliciter leur réaction. Mais ça reste des adolescents. Donc, il faut parfois les titiller, essayer de trouver, de ruser d'imagination ou de, voilà, d'essayer de leur...
Pour maintenir leur attention, ouais. Pour qu'ils s'intéressent vraiment au sujet, etc. Voilà. Il ne faut pas qu'ils se dissipent en quelque sorte. Par exemple, moi j'ai fait un film sur un de ces sujets-là.
On va y venir sur la programmation, Richard.
C'est pas la programmation, je voulais savoir comment vous sélectionnez les films qu'on vous envoie, sur quels critères par exemple? Parce que je suis sûr que vous recevez beaucoup de films et puis il en reste très peu après à passer. Alors comment on fait par exemple si quelqu'un veut proposer un documentaire, un film là-dessus, comment vous l'envoyez, par exemple?
Ce sont les bénévoles des associations qui choisissent les films. Et après, on se réunit tous.
Mais vous les choisissez comment?
Ce sont les bénévoles qui s'occupent des rencontres, qui les choisissent personnellement.
D'accord, donc ils voient un film, ils se disent celui-là, voilà. Il serait bien, et ils vous le proposent. C'est
exact.
Les bénévoles qui font ce travail-là.
Exact.
C'est
alors,
ça.
Moi, ça fait deux ans que je fais partie du collectif, et ce que j'ai pu observer, c'est qu'on a des bénévoles qui choisissent souvent des thématiques qui leur tiennent à cœur, liées à leur association.
Ou peut-être qu'ils sont concernés peut-être par le fait. C'est
voilà,
ça.
Par exemple, cette année, j'ai la Ligue des droits de l'homme qui a eu du mal à trouver un film sur les violences conjugales, familiales, mais qui a insisté pour nous en proposer un parce qu'elle trouvait ça, cette asso trouvait ça pertinent qu'on ait ce sujet-là aussi auprès des collégiens et lycéens. Après, on a CCFD qui aime bien parler de l'environnement, des pays en voie de développement. Bon, c'est normal, c'est leur thématique.
Oui. Mais ça permet d'avoir une palette large, justement, et d'aborder les différentes thématiques et les différents sujets.
C'est ça. On a deux films sur les migrants, proposés par la CIMAD et par Amnesty.
Oui. Je veux le chien de garde aussi, je ne sais pas, ça concerne peut-être les médias. Non,
c'est le grand public, oui.
Ça, c'est le grand public.
Bah, ça, c'est un film qu'on est allé voir, Christian, je te rappelle.
Il y a une quinzaine d'années, il est toujours d'actualité, c'est ça, la question.
Ouais, exactement.
Il est toujours d'actualité.
Et un mot justement, parce qu'on va évoquer la programmation pour le grand public, et on va parler de Gardanne, de Istres, d'Aix, de Marseille. Un mot avec Clarisse qui est avec nous et qui peut s'approprier le micro, voilà, qui est en service.
Service commandé.
Non, volontaire en service civique. Justement, parlez-nous un petit peu de votre rôle, de votre fonction. Vous êtes là ce matin sur les ondes de Radio Galère pour en parler. Et parlez-nous un petit peu de votre fonction et puis de ce que ça engendre comme affinité avec ce festival-là. Dites-nous un petit peu, Clarisse.
Oui, donc moi, du coup, au départ, j'ai voulu faire un service civique pour une reconversion.
Ouais.
Et donc, du coup, j'ai atterri au secours. Et donc, pour les rencontres cinématographiques. Et ce qui est top, c'est que je vois beaucoup de choses. J'apprends tous les jours, même sur les thématiques.
Tu as de la chance, parce que là, vraiment, c'est gâté. Pour un service civique, c'est magnifique.
Ah oui, mais c'est incroyable. C'est fou. Ça. Et donc, j'apprends tout le temps, j'apprends plein de choses. Même sur les thématiques qu'on me propose, il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai appris.
Rassure-toi, nous aussi, on apprend tous les jours et à tout âge.
Bien sûr, toute la vie, on apprend, bien sûr.
Toute la vie, on apprend, mais c'est intéressant. Et du coup, tu es porté sur la programmation, sur qu'est-ce qui fait que, comment tu développes un peu ta fonction, puisque tu es une salariée, en tout cas, de la structure.
Ouais.
Sur quelle partie tu œuvres principalement, toi, Clarisse, en tant que service civique ?
Moi, c'est principalement la com et la programmation, mais pour le volet scolaire.
Très bien.
Ouais, donc tout ce qui est planning pour le contact avec les profs, etc., ça c'est moi.
Ça c'est vous.
Voilà.
Donc il faut te contacter si par exemple un prof il t'entend là, en ce moment.
Ouais, on a un prof documentaliste qui vient souvent sur les zones de galère.
Il te contacte pour éventuellement venir dans sa classe ou dans.
C'est ça, voilà.
D'accord.
Mais au cours de l'année, est-ce qu'on doit absolument respecter le timing du 31 janvier au 6 mars ou justement dans l'année il y a eu. J'ai la réponse de ma question, mais c'est pour les auditeurs. Il y a tout un planning annuel, on est d'accord ?
Oui, parce que ce qu'il y a, c'est que le planning est fait dans le courant du mois de décembre. Donc après, si ça arrive entre-temps, c'est un peu compliqué on est déjà à 82 séances, donc ça fait...
82 séances par an ?
Oui, ça fait beaucoup.
Ouais, donc, ça fait quasiment deux par semaine, quasiment. Puisque...
En tout cas, c'est très bien. C'est un signe de succès aussi, finalement, si vous êtes demandé comme ça. Donc il faut l'accepter aussi.
Oui.
Ouais, Est-ce que vous estimez que ça doit rentrer dans un programme scolaire ?
Bonne question,
oui.
Les profs, des fois, l'incluent dans leur programme scolaire. Donc, on peut dire que c'est déjà le cas pour certains. Et c'est vrai qu'on a des habitués maintenant. On a la chance de recevoir des messages sympas des profs qui nous disent « Ah, ben, on attendait avec impatience ». Et c'est vrai. Alors, ce qui peut parfois être un casse-tête pour nous, parce que des fois, ils veulent l'inclure telle semaine, tel jour.
Et pour vous, c'est plus dur, c'est ça.
Ouais, voilà, il faut qu'on soit compliqué. Il faut qu'on concorde avec ce qu'ils avaient prévu dans leur emploi du temps. Mais bon, comme on a pas mal de bénévoles qui ont du temps libre, on en profite.
Vous avez pas mal de bénévoles, mais il vous en manque, il paraît. C'est ça.
Oui.
Alors, faites un appel si vous avez besoin, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés à travailler avec vous dans des super structures, non ?
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire, alors, justement ?
Ah ben on cherche des bénévoles qui ont des disponibilités donc pour préparer, donc organiser la programmation scolaire et grand public, et aussi pour animer des séances scolaires, donc c'est-à-dire connaître des thématiques sur les droits de l'homme ou apprendre et savoir animer une séance, discuter avec des élèves, des jeunes
les sensibiliser quoi là.
Voilà.
Au sujet que passe le film, c'est ça ?
Oui.
Sur les droits de l'homme.
Oui, voilà. Donc après, on accepte tous ceux qui se sentent d'une...
Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de compétences particulières.
Il faut une âme sensible.
Une âme sensible, exactement.
Voilà, il faut avoir du cœur. Et le cœur, c'est important.
Bravo pour la formation des jeunes, hein, c'est essentiel, qui comprennent pas mal de choses. Hein.
Mm-hmm.
Et alors après, vous avez des films qui vont s'adresser aux adultes éventuellement.
Oui.
Alors, on va passer à ce volet peut-être. Le volet qui permet d'avoir je ne sais plus combien de lieux et de cinéma.
7 cette année.
Oui, on va parler des différents lieux. Merci Richard pour la transition.
Grand public, en quelque sorte, voilà.
Alors, parlons un petit peu des différents lieux. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, Garda, Nice et autres, mais voilà. Et peut-être des dates phares. Alors, il y en a au final, je crois, 7. Vous avez si bien dit. On peut peut-être les évoquer, Sonia.
Oui, donc on commence ce vendredi 31 à 20h à Gardanne. Donc on va présenter un film qui s'appelle La dernière graine. Donc,
c'est à la salle Léo Ferré, pardon Sonia, à la Halle, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà.
Donc c'est en partenariat donc, toujours avec le CCFD qui va nous présenter la thématique de destruction de la biodiversité et des savoir-faire en Afrique. Après, on enchaîne.
Oui, après, on enchaîne avec lui sur le 3 février. Mais je vous en prie, on est enchaîné. Comme ça, on a la programmation en tête.
Exactement.
Voilà,
alors, on peut dire qu'il y a une tarification qui s'adresse directement par rapport au cinéma où il passe. C'est ça ?
Oui, alors c'est des petits tarifs, voire... je pense qu'à Gardanne, c'est plutôt une participation libre.
Oui, Gardanne, c'est sûr. Ouais.
Voilà.
C'est leur fibre gardanienne, en quelque
c'est
sorte.
C'est ça. Ils n'ont pas encore récupéré de... Je pense pas que ça soit... Ils ont récupéré un cinéma, mais du coup, ils font ça dans une salle. Bon,
c'est la salle Léo Ferré, oui, en effet.
Alors les gens là, bon, il y a tellement de cinéma, il y a tellement de lieux. Est-ce qu'il y a un site qui permet de voir, qui puisse voir tout le programme?
Un site internet?
Oui.
Ah oui, maintenant avec Clarisse, on est au top de la communication.
Ah, parfait. Alors allons-y, dites-le. Où c'est qu'on peut retrouver ces infos, cette programmation alléchante?
Donc, et voir tous les films, alors, ouais. Sur internet.
Du coup, on a toute la programmation sur notre site web. Donc, c'est rcdhprovence.fr.
Alors, allez-y, doucement.
rcdhprovence.fr.
Et qu'est-ce que ça veut dire, les trois lettres?
Rencontre. Alors, c'est rencontre cinématographique.
En Provence.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Il y en a cinq de lettres.
Hein. Cinq lettres.
Eh oui.
Allons-y.
On a un nom très long parce qu'on a beaucoup de choses à dire.
Oui. On sait que la palette est très large et on en a besoin, évidemment. Rencontre cinématographique des droits humains en Provence. On le rappelle que c'est la 15e édition. Et d'ailleurs, c'est indiqué comme cela, notamment sur le flyer. Ciné-débat. Et ça, c'est quand même voulu, c'est qu'il y a cet échange, il y a ce débat. Marie-Laure, vous me dites si je me trompe et n'hésitez pas à prendre la parole, mais le débat, il est fondateur, il fait partie de la réactivité voulue.
Oui, c'est pas passif.
C'est pas passif, on accueille des intervenants qui peuvent être hauts de nos associations ou d'autres associations également qui vont venir pour animer ce débat. Chaque année, c'est comme ça.
C'est bien parce que ça permet à des gens qui auraient des questionnements de pouvoir débattre et exprimer leur opinion, comprendre l'opinion des autres, etc. C'est très bien, c'est des échanges positifs qui permettent à chacun de pouvoir évoluer sur sa pensée. Hein.
Alors, on s'était arrêté à Gardanne. On passe à Istres,
On passe à Istres pour le 3 février,
Pas alors, qu'est-ce qui se passe à Istres?
Alors, on a un très beau documentaire qui s'appelle Ernest Cole, photographe, proposé par Amnesty, qui raconte donc l'apartheid au travers des clichés de ce photographe qui est passé.
Oui. C'est l'Afrique du Sud, c'est ça?
C'est l'Afrique du Sud et il fait le parallèle.
Le temps de l'apartheid.
Voilà, c'est quelqu'un qui a vécu l'apartheid, qui a pris de nombreuses photos et qui est parti, qui a fui l'apartheid pour finir aux États-Unis. Et en fait,
il a retrouvé la ségrégation raciale.
C'est ça, exactement.
Exactement, c'est ça.
Mais il fait le parallèle entre les deux.
C'est exactement ça, exactement.
C'est ça.
De Carrie Bansila, enfin, je ne sais pas quel était le mieux, mais bon. Ah, voilà, ça c'était à Istres. Et après, on continue le trajet du grand
sur
public.
Sur Aix. C'est le campus Schumann. On est vraiment dans l'école, on est vraiment à la fac d'Aix-en-Provence.
Oui, le 6 février à 18h. C'est vrai que chaque année, ça nous tient à cœur de travailler aussi avec les étudiants. Donc toutes les facultés d'Aix vont être réunies dans ce campus pour présenter donc, un film qui s'appelle « Je ne sais pas où vous serez demain ». Qui parle des
vaste programme.
Ouais.
Vaste question.
Qui parle des migrants qui sont accueillis en centre de rétention à Marseille.
Les étudiants non plus, ça ne veut pas où ils seront demain. Vous avez choisi le lieu.
C'est vrai. Et donc là, on aura donc Amnesty en partenariat avec la CIMAD qui nous feront l'amitié de présenter, d'animer ce débat avec des étudiants. Donc je vais dire deux mots sur comment ça se passe. C'est vrai que
je vous en prie, Sonia.
On a Bruno Canivin qui travaille aussi à la coordination avec nous d'Amnesty qui va rencontrer à chaque fois les étudiants qui cherche avec eux des films qui leur parlent et c'est eux qui choisissent.
C'est eux qui font le choix.
C'est eux qui choisissent, voilà. Donc ça c'est la particularité qu'on a dans la programmation grand public. Directement à la fac et c'est gratuit. Parce que c'est à la fac, hein, c'est les étudiants, c'est normal.
Ils n'ont pas d'argent.
Voilà.
Ensuite,
on poursuit.
Allez, je laisse la main à Marie-Laure qui connaît bien la programmation de Marseille.
Allez, parfait.
À Marseille.
Allez,
donc le 7 février à 16h au cinéma Polygone étoilé. L'entrée est libre, participation libre. Et le film, c'est Les Chompis. C'est un film où il y a plusieurs sujets. C'est un film qui raconte la révolte des Chompis. Ce sont les ouvriers les moins qualifiés de la laine à Florence à l'époque, en 1378.
Au Moyen-Âge, hein, c'est
ça. Voilà, au Moyen-Âge, 1378, au temps où Florence était en fait une république. Et donc elle était gérée. Il y avait un parlement, il y avait plusieurs assemblées, mais les Chompis étaient, eux, ils n'étaient pas représentés du tout. Et ils se sont révoltés. et sont arrivés à renverser ce gouvernement. Donc c'est ce que ce film raconte. Et il fait aussi le parallèle avec les révoltes actuelles, toujours dans l'industrie textile, actuellement à Florence ou dans les environs de Florence. Alors ce ne sont pas des Italiens peut-être, ce sont beaucoup d'ouvriers immigrés et qui se révoltent aussi pour leurs conditions de travail et pour des meilleures conditions de travail. Donc le film fait le parallèle entre les deux.
C'est toujours la même histoire.
Et c'est toujours la même histoire. Et là, on a invité l'association Les Amis de la Terre qui vont parler sur la thématique de la mode. La mode, une tendance destructive.
Ah,
puisque
oui.
Un tritestile, c'est,
pollueur,
c'est,
voilà, un gros
c'est pollueur. Pollueur. Non, c'est... Voilà. Ça, c'est le...
On en parle peu, mais c'est, il faut le dire. Ensuite.
Alors, ensuite, Les Nouveaux Chiens de Garde, qui sera projeté à Château-Renard le 19 février à 20h. C'est un documentaire. Il est proposé par la Ligue des Droits de l'Homme. Et il sera en présence d'un animateur de la Ligue des Droits de l'Homme.
Alors, ça, c'est un classique, Le Nouveau Chiens de Garde. Il a fait beaucoup
parler
de lui.
Ancien.
C'est ancien, mais qui est toujours d'actualité. Ouais, exactement.
Voilà. Ensuite, on revient à Marseille le 25 février à 15h30 à l'Artplex, sur la Canebière. Alors, c'est un film plus récent et, je pense, assez connu, Nomadland, puisqu'il y a eu plusieurs Oscars. Il a eu plusieurs Oscars. Et il parle de la précarité aux États-Unis, puisque aux États-Unis, tout le monde n'est pas riche. Et notamment, il y a des travailleurs pauvres qui doivent se déplacer d'un endroit à l'autre pour trouver du travail.
Tout ça va bientôt finir avec Trump, non? Tout le monde va devenir riche.
Bon, alors, je l'espère pour eux, évidemment. Mais là, dans le film, on voit que ces travailleurs, ils sont comme des migrants dans leur pays, puisqu'ils doivent aller d'un endroit.
Ils vivent dans leur
ils vivent dans leur camping-car.
Dans leur camping-car, c'est ça.
C'est ce que raconte le film. Voilà. Et le dernier film sera à Aix-en-Provence, le 6 mars, à 20h30. Ça sera projeté au cinéma Mazarin. Et c'est un documentaire présenté par Amnesty International qui raconte, alors c'est la problématique de la guerre en Irak. En 2014, le groupe État islamique s'est lancé à la conquête de l'Irak, du moins d'une région en Irak, le mont Sinjar. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été enlevées, qui ont été...
C'est le calvaire des Yézidis. Dans beaucoup de femmes qui ont été violées ou mariées de force. Enfin, voilà, bon, c'était,
tuées,
c'était horrible.
Disparues, voilà. Beaucoup de personnes disparues.
C'était vraiment horrible.
C'est dont se traite le film.
Le titre, c'est Sinjar, naissance des fantômes.
Oui, les fantômes.
Ce qui est quand même terrible de voir, c'est que les époques passent, rien ne change. Alors, ce n'est pas forcément en vrille dans un endroit... Mais ça se déplace dans un autre endroit. Je veux dire, vraiment, il est temps qu'on soit dirigé par une intelligence artificielle qui soit programmée
soit plus
pour éviter
que nous,
tout ça.
Vous voulez qu'on en débatte, c'est ça?
Ça peut être un sujet pour
c'est vraiment
une tristesse
de voir que tout change, rien change, quoi. Enfin, je veux dire, on déplace les trucs, etc. Bon, on entend des énormités. Enfin, bref. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous faites un travail absolument remarquable. Je pense qu'il faudrait le multiplier par 100 pour pouvoir avoir un impact.
C'est pour ça qu'ils ont besoin de bénévoles pour multiplier par 100. Et voilà, c'est ça. Plus ils sont nombreux, plus ils vont pouvoir faire de travail.
Est-ce que vous avez eu, dans les années, puisque ça fait quand même 25 ans, c'est ça, hein, le festival dure depuis combien de temps?
15 ans. 15e édition.
Dans 15 ans, voilà.
Est-ce que vous avez vu depuis 15 ans
une amélioration.
Vos moyens de programmation augmentés.
Moi, ça fait que 2 ans que je suis dans le festival.
C'est-à-dire comment les moyens de programmation, c'est-à-dire.
C'est-à-dire plus de films, plus d'informations dans les écoles.
Malheureusement, non.
Ça touche la finance. Comment vous êtes financé, tiens, alors justement.
Alors financé, non, on s'autofinance.
On s'autofinance. Ça, s'il faut le dire aussi, c'est très important.
Malheureusement, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis le Covid, en tout cas, il y a moins de spectateurs. Enfin, à Marseille, je parle de Marseille. Il y a moins de spectateurs.
Les gens viennent moins.
Depuis le Covid, c'est très net.
Vous croyez que c'est la faute au Covid?
Je dis juste ce que je constate.
Oui, non, c'est un constat.
C'est un constat. Avant le Covid, les salles étaient davantage remplies, il y avait beaucoup plus de monde. Et là, je me dirais que ça a été divisé par 3.
Divisé par 3, oui. Non, mais c'est pas possible, ça.
Oui, si, à Marseille. Et pourtant...
Voilà. Cette année, on va rebondir.
Peut-être, oui.
On a une super salle de cinéma cette année à Marseille.
Oui, vous avez de belles salles en plus, voilà. Et puis en plus, à mon avis, il faut faire beaucoup de pubs.
On a fait beaucoup de pubs. On est venu ici, on a fait énormément de pubs sur les radios, dans les journaux. il n'y a pas eu beaucoup de monde.
Et vous, votre sentiment, c'est pourquoi ?
Pourquoi ? Je ne sais pas dire.
C'est difficile.
C'est
hein.
difficile à dire. Je crois ouais. que je pense même les cinémas, si on discute avec les directeurs de salle, ils disent que globalement, pour eux aussi, ce n'est pas que pour nos films, c'est pour tous les films.
Ils ouais. le constatent. Ouais, c'est général.
C'est général.
Les gens.
Voilà, pourquoi ? Parce qu'ils regardent le cinéma chez eux, peut-être. Qu'ils ont...
Ouais, on plateformes, peut aller sur le web voir ces films aussi, puisque.
Aussi, voilà. Voilà. Peut-être c'est une aussi, raison.
Ça enlève un peu c'est ce qu'il n'était peut-être pas avant aussi. Non ? Service civique. La parole au service civique.
Non, les films ne sont pas tous sur le web.
Ouais, ils ne sont pas tous. On peut en voir certains, mais pas tous.
C'est ça, il y en a quelques-uns, on peut avoir la chance de le trouver, mais pas tous, quoi.
Oui, je rebondis. C'est vrai que, par exemple, avec les scolaires, parce qu'il faut quand même renvoyer la balle à ceux qui créent les films, on demande une participation à chaque élève de 2,50€ pour financer les droits d'auteur. Et cette participation, elle est, on va dire, à 99% financée par le Pass Culture. Donc ça, on arrive à rebondir là-dessus. Et le but, c'est effectivement qu'on remercie aussi ces cinéastes qui nous font des magnifiques films.
C'est quand même terrible que les droits d'auteur puissent prendre quelque chose dessus, quoi.
Bah, ils ont des frais. Et quand on fait un film, on a des frais, Richard. Je te signale, c'est très cher de faire un film. Hein. Donc c'est normal qu'ils rentrent dans leurs frais. On est bien d'accord. Rien d'extraordinaire.
Non, parce que ce sont des films qui sont à caractère éducatif. Je reprends, hein, c'est pas des films commerciaux.
Non, c'est commercial aussi, parce que c'est pas
pour moi.
C'est pas des films scolaires, attention.
Financé autrement, je comprends que les gens doivent gagner.
Vous avez raison.
Mais pour moi, non.
Il y a beaucoup de distributeurs. Qui ne nous demandent pas de financement, qui nous offrent le film, c'est vrai. Mais bon, de temps en temps, on accepte aussi que certains nous demandent des droits d'auteur.
Des droits d'auteur.
On leur pose la question, en tout cas.
Les salles vous sont offertes, je suppose, pratiquement, non ? Ou pas ? Non, on fait le test. Alors, comment ça se passe ? Ils font un petit geste, quand même, pour les droits d'auteur.
Alors,
pas.
Par exemple, si vous voulez, je pars du poulon étoilé. Ils nous offrent la salle, mais on doit payer le projectionniste.
Oui, bon, je ne pense pas que ce soit une fortune au polygone étoilé. Je connais un peu le lieu, c'est pas...
Bon, mais voilà, par exemple, si on parle d'Artplex, alors
là... c'est une autre dimension.
C'est une autre dimension, parce qu'eux, ils font payer l'entrée. Et ils nous demandent de leur garantir un nombre minimal d'entrées, ce qu'on leur garantit sans problème.
Donc une certaine somme.
Une certaine somme, voilà.
Bon, enfin, on espère que tout ça évoluera dans le bon sens de toute façon, et que le travail que vous faites, qui est remarquable, permettra... la réflexion de tout un chacun sur les sujets choisis qui sont quand même pas anodins et qui malheureusement persistent un peu partout. Et, bon, on parle encore de ça dans 10 ans après. Bon, je pense qu'à un moment donné, il faudrait. Mais bravo parce que c'est bien de voilà. Et qui c'est qui participe alors dans les films, qui va dans les cinémas? Vous participez au dialogue avec vous participez chacune d'entre vous?
Pas trop, parce qu'on ne fait que présenter les intervenants, en fait. On ne participe pas réellement. On va juste présenter le film rapidement au début, présenter les intervenants à la fin du
Et
film.
Vous êtes sur place quand même, quelquefois.
Oui, forcément. Ça, oui, on est sur place. Ça s'arrête là. Après, ce sont les intervenants qui prennent la parole et qui discutent avec le public.
Il nous reste une petite minute. Une participation directe ou indirecte sur les intervenants.
On essaye de faire venir des associations. Là, cette année, donc, c'est les Amis de la Terre pour Chompy, et c'est quand même quelqu'un de Secours catholique pour Nomadland, puisque c'est une thématique, la précarité portée par le Secours catholique, dont on n'a pas fait venir notre association. Mais si c'est des thématiques qui sont un peu en dehors de Secours catholique, on essaye de faire venir une association qui est dans le sujet du film.
Sonia veut dire un petit mot.
Oui, on doit conclure, en effet. Un bénévole qui anime donc des séances au Mazarin, donc c'est Bruno d'Amnesty. Et après, c'est vrai qu'on fait marcher le réseau, effectivement, comme a dit Marie-Laure. Chaque bénévole, on a quelques bénévoles qui proposent les séances et qui font marcher le réseau.
Oui, parce
Parfait.
Que pour animer, il faut bosser, il faut travailler les sujets. C'est un travail...
C'est un vrai travail.
C'est un vrai travail. Merci, on va devoir conclure.
Je sens que vous allez le faire.
Est-ce que Richard m'entend?
Richard, il t'entend, on t'entend faiblement, Anthony, c'est pour ça. On arrive à la fin, les amis.
On est à la fin déjà. Pour cette action.
Ma résolution première.
Ouais.
Ben, je pense que avant tout, c'est la sensibilisation.
Voilà, c'est le mot de la fin. La
exactement. Je suis désolé. A priori, vous m'entendez pas. Ça fait 3 minutes que j'essaie de vous dire que
c'est un peu faible. C'est un peu faible.
Ok. Bon, mais écoutez, c'est les aléas de la nouvelle table de mixage.
En tout cas, on vous remercie.
Voilà. On vous remercie.
On est de merci. Avec vous et revenez quand vous voulez à Radio Verrier. Vous le savez.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour les rencontres.
On est sur les réseaux, hein. Instagram, Facebook, on a une newsletter.
Voilà, mais pas sur X quand même.
Donc RCDHP. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au plaisir de vous
revoir
sur les ondes de Radio Galère. C'était un plaisir de vous avoir, évidemment. Et on se retrouve. Ben, on aura l'occasion de revenir et de reparler avec vous très prochainement. Pause musicale qui arrive dans 30 secondes. Juste après, on a le plaisir de recevoir la Maison Clap et le chorégraphe Christian Hubble qui est avec nous pour nous parler notamment de vagabondage et conversation. Voilà, c'est juste après sur les ondes de Galère. Restez fidèles évidemment au 88.4 et tout de suite, c'est la programmation musicale. Christian nous avait mis un Chicken Jaffa Coli. On est d'accord, mon cher Christian?
Et ouais, plus rien ne nous étonne maintenant.
Plus rien ne nous étonne.
Après l'élection du USA.
Exactement, mais c'est sur les ondes de Radio Galère et malheureusement, on n'est pas étonné par le contexte. Merci, au plaisir
Merci
de vous
beaucoup.
Revoir. Merci. Allez, Chicken Jaffa Coli, plus rien ne m'étonne sur les ondes de Galère.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandingue. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'actualité locale et au dossier local. On va parler de danse, de chorégraphie. On a le plaisir de recevoir le chorégraphe Christian Huble qui est avec nous en tant que chorégraphe. Il est accompagné de David Dibilio qui est directeur des productions et adjoint à la programmation de CLAP. La maison de CLAP, pardon, maison pour la danse. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et bonjour David.
Bonjour.
Voilà, merci d'être avec nous sur les ondes de Galère. On va donc parler avec vous notamment de vagabondage et conversation. On a quasiment 30 minutes, allez 28 pour être précis, sur les ondes de Galère pour évoquer cette actualité-là. C'est le volet culture, c'est le volet danse, chorégraphie. On peut évoquer tout l'aspect également théâtral de la chose. Richard et Christian sont toujours avec moi, Anthony, au micro pour boucler cette dernière demi-heure de la matinale. On va donc évoquer, et je salue d'ailleurs Cédric qui est chargé de la communication, attaché presse, et qui a fait le relais pour créer cette connexion, et on est ravis de vous accueillir. Dans un premier temps, on va parler de CLAP, Maison pour la danse. Parlez-nous un petit peu de cette structure, David. Et donc voilà, on a besoin de savoir un petit peu, même si nous on vous connaît, de savoir un petit peu l'ADN artistique, développer ce que fait cette belle structure.
Alors CLAP Maison pour la danse est une structure qui est installée dans le quartier de la Belle de Mai, qui a été inauguré en 2011 par le chorégraphe Michel Kelemenis, qui est un chorégraphe qui était installé depuis longtemps à Marseille. Et dans la foulée de sa compagnie, il a créé ce lieu qui est un théâtre entièrement dédié à la danse contemporaine. Ça veut dire que c'est un lieu de travail pour toute l'année. Toutes les compagnies qui viennent travailler dans les studios, élaborer, construire leurs spectacles. Un lieu aussi de représentation, c'est-à-dire qu'on a une saison du mois de septembre jusqu'au mois de juin avec des spectacles toute l'année, des créations, beaucoup de créations, parce que l'ADN de CLAP, c'est que les compagnies arrivent plutôt à la fin de leur projet et créent à CLAP. Donc on est plutôt dans un lieu où on voit des premières, comme c'était le cas avec Christian, dont c'était la première de son spectacle.
C'était hier d'ailleurs, on le rappelle, ouais. Hein, c'est important de le rappeler, 21 janvier, c'était la première de Christian Huble justement pour le volet de la chorégraphie. Vous êtes né à Vienne en Autriche, vous avez été formé et initié d'abord, vous me dites si je me trompais, par le sport, notamment le patinage artistique. C'est bien ça, c'est quand même extrêmement atypique. Et ensuite,
pour Vienne, c'est pas atypique le patinage artistique.
Quoique... Je sais pas, tiens, c'est peut-être une bonne question.
On va voir.
à voir ce qu'il en est. Et des danses sportives latines, puisque vous avez pratiqué ça à très haut niveau. Vous êtes intéressé à la danse contemporaine. Vous avez décidé de suivre des stages, notamment à Vienne, à Budapest, à Nantes, à Istres, à New York, auprès notamment de Trisha Brown. Et puis en 97, vous avez intégré notamment cette formation. Colline à Istres, vous êtes parti à Vienne dans une école privée. On peut dire que vous avez bourlingué, comme dirait l'autre, et surtout vous avez été l'interprète, notamment avec de nombreux chorégraphes en France. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on parlait de Michel Kelemenis, Thomas Lebrun, Daniel Dobbels. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors je vous invite à taper sur les moteurs de recherche et vous rendez compte un petit peu de la puissance de la chose. La compagnie Linga, enfin voilà, j'ai dit Christian Blaise, Abou Lagra et autres. Et vous avez donc, il y a 20 ans, mené votre propre recherche chorégraphique. Vous avez développé une recherche scénique à multiples facettes, notamment sur le sens, l'absence, la présence d'un corps en action, l'acte artistique. Tout à l'heure, j'évoquais en off aussi deux éléments, c'est-à-dire de incarner, raconter des histoires à travers deux corps et deux récits. On pourrait développer davantage, mais on va garder un petit peu le cœur du dossier pour le volet vagabondage et conversation. Un mot sur votre connexion aussi entre vous, David et Christian. Voilà, c'est quand même intéressant de l'évoquer parce qu'il y a toute une antériorité, tout un travail artistique qui est bien présent et qui permet aussi de mettre en étalage le talent et la représentation.
Bah, oui, il y a une double fidélité. Christian parlera de sa relation très ancienne avec Michel Kelemenis, mais Christian et moi, on s'est rencontrés il y a une douzaine d'années lorsque je travaillais dans un lieu à Paris qui s'appelle Point Éphémère. Et il développait un spectacle qui était important pour lui dans son parcours qui s'appelle Shake It Out. D'ailleurs, le spectacle Vagabondage et Conversation dont on a eu la première hier fait un petit clin d'œil à ce spectacle-là. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Voilà. Et donc ça fait un moment et c'est vrai que c'est important en général, mais aussi dans nos métiers de les fidélités comme ça, c'est assez ouais. C'est assez joli, je trouve.
C'est une belle... Christian, un mot là-dessus, sur alors, votre portrait, on l'a développé plus ou moins, mais derrière, sur cette rencontre, cette connexion, ce qui fait qu'aujourd'hui, et notamment hier, vous étiez à la Maison Clap.
Oui, bien sûr. En effet, alors la connexion avec le sud de la France, c'était Istres d'abord, parce que du coup, j'ai venu m'installer ici il y a 26 ans à Istres pour faire la formation 2 ans. Et dans ce cadre-là, bah, j'ai rencontré plusieurs chorégraphes de la région, dont Michel Kelemenis, avec qui j'ai pu collaborer en tant qu'interprète pendant une dizaine d'années, entre 2000 et 2010 à peu près. Et donc c'est ça un peu aussi les racines, et pour ça la compagnie elle est installée à Marseille, que depuis 2013 ou 12, je sais plus exactement, avant elle était à Istres en fait, pour le tout des débuts, c'était en 2005-2006, j'ai lancé donc cette affaire de ce cube, cette espèce de voilà,
oui,
scène.
Oui, cube, c'est le nom de votre...
C'est cube, c'est la scène, c'est une boîte, c'est tout ce qu'on veut, on peut même mettre plein de choses dedans, et tout a commencé là, et voilà, c'est vrai, le temps passe vite, ça fait 20 ans maintenant, et donc il y a cette connexion avec Michel, voilà, à la fois au sein de ses œuvres, et en même temps il a aussi beaucoup me soutenu dans ma démarche de vouloir initier mon propre parcours et de me lancer en tant que chorégraphe, ce qui n'était pas la même réalité à l'époque en 2005-2006 qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas tous ces réseaux d'émergence et tout ça, on n'était pas là encore, donc c'était toute une autre façon de faire, on va dire, voilà, différemment, et c'est chouette d'être encore en contact aujourd'hui avec Kélé, avec ce qu'il a pu faire, et aussi avec David, que je croisais dans d'autres contextes, en fait, finalement, dans mon parcours.
Oui, puis vous êtes passé plusieurs fois.
C'est quand même... difficile d'essayer de vous classer parce que vous avez tellement d'arcs et vous avez tellement fait de choses que
ah bon
c'est, vous êtes vraiment, à mon avis, très complet dans votre façon de faire. Quoi. Vous avez, non ?
Ah oui, je sais pas. c'est les autres qui le disent soi-même, je sais pas. Après, j'ai fait plein de choses, c'est vrai. Oui. J'ai tenté différentes choses. Il y a aussi mon parcours, il n'est pas très, on va dire, cadré dans un conservatoire parce qu'il n'y avait pas de conservatoire en Autriche à l'époque. Et je ne pouvais pas dire à mes parents, j'ai fait la danse contemporaine parce que bon, voilà. Ça... Et donc, du coup, moi, je suis arrivé par le sport et par d'autres moyens. En
qu'est-ce
fait.
Que vous appelez sport latino ?
Non, j'ai commencé
latino.
Par le patinage artistique d'abord, voilà, quand j'étais tout petit, genre, j'ai pas 8-9 ans, je faisais ça un peu, voilà, et après il y avait des compétitions, il fallait faire un choix, si tu t'engages vraiment professionnellement dans ce sport-là, c'est assez prenant, mais du coup j'ai fait le choix, voilà, de plutôt continuer l'école et pas aller dans ce sens-là, et après j'ai fait des danses latines sportives, en fait, il y a des associations, on peut s'inscrire dans les danses, en fait, en Autriche il y a beaucoup les danses de société qui sont pratiquées, presque, je sais pas si c'est encore aujourd'hui le cas, mais je pense quand même, ça revient assez fort, où on invite, c'est une façon de rencontrer l'autre, bon aujourd'hui c'est open, hein, donc c'est,
très bien,
on peut choisir qui on veut, hein. À l'époque c'était pas comme ça. mais tout évolue, c'est bien. Et donc, du coup, les danses de société, c'est cha-cha, rumba, samba, passo doble. Voilà, ça, c'est danse latine, mais il y a aussi les danses standards.
Est-ce qu'on peut appeler ça danse sportive, non, Claire ?
Oui, danse sportive. Il y a des compétitions. Et moi, j'étais dans l'équipe nationale de l'Autriche, en fait. Voilà, on a représenté l'Autriche d'une manière ou une autre.
Moi, j'ai mon fils qui en a fait 12 ans de danse sportive. Je bien.
Ah ben voilà, moi j'en ai fait aussi autant et oui. Je me suis arrêté vers 21 ans, voilà à peu près. Et j'ai développé à côté une autre pratique artistique parce qu'il y avait beaucoup de règles, c'était quand même très contraignant et je sentais qu'on avait envie de s'exprimer autrement, d'aller au sol, de faire des choses. Mais on pouvait pas trop parce qu'à chaque fois on nous dit, ben non, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous allez au sol et tout? Je dis, ben voilà, je sais pas, on explore d'autres façons de faire. Et donc on a senti
c'était
que...
C'était très cadré, très rigoureux.
Oui, c'est beaucoup de codes et tout ça parce qu'on est noté. Donc il y a des juges qui te notent et tout ça. Donc après c'est une chouette, c'est beaucoup de rigueur, hein, c'est sûr. Il y a pas mal, c'est beaucoup d'investissement personnel et aussi de soutien de la part de mes parents. Parce que voilà, il y a des compétitions, il faut qu'on amène, on t'amène, parce que moi, à 17 ans, j'ai pas de permis, et comment tu vas là-bas, et tout ça. Donc c'est un vrai engagement aussi, si les parents, ils veulent voilà, faire ça. Et c'était très chouette, hein. Moi, à l'époque, j'étais, waouh, vous voyez tous ces... Même aller dans des compétitions internationales, c'était un peu exotique, déjà. On va dire ça comme ça.
De votre côté, c'est un art différent. C'est les paysages, c'est tout ce... Enfin, je pense qu'il y a quand même des arts différents. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre parcours personnel ? Parce qu'il est aussi riche que...
Vous adressez à moi, pardon.
Parce qu'après, c'est une rencontre très...
Oui, il est en regard, nous dans nos métiers, du point
de vue... L'art est là, mais...
Oui, dans nos métiers, du point de vue des structures, on est là pour accompagner pour les artistes et pour faire en sorte de les écouter, faire en sorte que les projets se développent. Donc effectivement, bon, voilà, moi j'ai un parcours un peu en zigzag, mais voilà. Mais je ne comprends pas trop votre question.
Non, Richard fait une petite erreur. Il confond avec Gilles Clément.
Zigzag aussi. Voilà.
Non, je ne suis pas Gilles Clément.
Non, Richard confond avec Gilles Clément, c'est pas grave.
Mais je peux vous raconter des choses sur Gilles Clément.
Ah bah oui, il faut parler de Gilles Clément.
Voilà,
oui,
je pense que c'est une erreur, ça peut arriver, on parlera, c'est aussi ça, mais non, ce n'est pas Gilles Clément, mon cher Richard. voilà, David s'occupe de la programmation du CLAP, voilà, comme indiqué dans le mail, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est les lois du direct aussi.
C'est les lois du direct.
Et voilà, donc ça nous permet de parler de connexion. La maison du CLAP, elle est connue pour ça, évidemment, et pour héberger, pour faire des résidences et pour mettre en avant différents acteurs et différents artistes, et c'est le cas avec Christian Huble. Je vous en prie, Christian. Vous souhaitez dire quelque chose ?
Non, qu'est-ce que vous voulez que je peux...
J'ai l'impression que vous souhaitez parler, non, mais il n'y a pas de problème.
Moi, je peux vous poser une question.
Mais bien sûr.
Sur Gilles Clément.
Non, je vis que votre parcours, qui est un peu zigzag pour tous les deux, est-ce que ça explique un peu le fait de ce que vous êtes en train de faire, c'est ce vagabondage que vous êtes en train
de parlez-nous de cette pièce-là, exactement.
C'est ça aussi, c'est le goût du vagabondage, ce fait d'aller à droite, à gauche, d'expérimenter, de voir des choses qui plaisent, des choses qui plaisent moins, mais toujours d'expérimenter, de connaître d'autres horizons, puisqu'en plus vous avez fait des compétitions internationales, sans doute vous avez vu des pays, des endroits que d'Autriche vous ne connaissez pas, et ça vous a donné l'envie de vagabonder, et puis aussi de se mélanger en quelque sorte, puisque c'est aussi un peu l'ADN de votre spectacle, de ce que vous êtes en train de faire aussi.
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose comme ça qui était une évidence. Après, ce spectacle est né par... Au départ, c'était une rencontre avec Gilles Clément en 2014 pour un autre spectacle qui s'appelle How, voilà, où j'ai cherché au départ un scénographe. Et donc, à l'époque, c'était très soutenu par Antoine Conjard, qui était directeur de la scène nationale Hexagone à Grenoble, qui m'a donc présenté Gilles lors d'une conférence. Parce que Gilles fait beaucoup de conférences, en fait, dans son domaine. Et bah, la connexion s'est faite comme ça avec Gilles, où je l'avais invité de collaborer avec moi sur ce projet How, mais parce qu'on avait travaillé sur ses textes un peu. Voilà, on s'est inspiré en tout cas. Et là, il y a 2 ans et demi, je lui ai lancé cette idée idée un peu folle de collaborer ensemble et qu'il se déplace et il vient avec moi sur scène sur la question. Bon, au départ, on n'avait pas de titre. C'était d'abord, ça s'appelle un pas de côté ou un écart, prendre un écart, parce que pour lui, c'est prendre un écart parce que c'est pas son domaine. Et finalement, après, on s'est dit que non, c'est mieux vagabondage et conversation. Conversation, c'est avec lui. Vagabondage, c'est plutôt par rapport à mon parcours. Parce qu'on voulait à la fois mettre quelque chose qui me concerne sans forcément parler de ma vie en biographie, mais de le transposer dans une propos artistique qui sont de fait finalement très présents dans ce que Gilles Clément défend, dans sa façon comment il voit le monde. Voilà, le monde sans drapeau, que la nature elle s'installe là où elle peut s'installer, c'est finalement un territoire d'accueil.
Si on retrouve
d'accueil.
Aussi l'écologie, le problème de l'écologie,
tout enfin, à fait,
enfin, tous les sujets actuels qui,
tous
qui,
les sujets actuels qui ont toujours été actuels, c'est juste en ce actuel. Moment on pense que c'est actuel, mais
c'est encore plus
lui
actuel
il a déjà,
en ce moment.
Oui, voilà, mais lui il est déjà défendu dans les années 60. Quand il me le dit, hein, donc après, évidemment, il y a toute cette actualité, on en parle en ce moment parce qu'on a l'impression d'être vraiment concerné. En tout cas, on a conscience d'être concerné. Voilà.
L'actualité voilà. Le prouve. Hein, on voit ce qui est en train de se passer, par exemple, aux États-Unis. Et c'est catastrophique au point de vue déjà de l'écologie et du climat, ce qui peut arriver et ce qui arrive d'ailleurs.
Et dans ce spectacle, c'était cet euro, c'était un projet hybride en fait, entre quelqu'un qui est plutôt jardinier, botaniste et écrivain, Gilles Clément, et moi-même.
Concepteur paysagiste, ouais. C'est comme ça qu'il était présenté.
Jardinier, il dit plus, parce qu'il met les mains dans la terre, parce qu'il a une formation d'ingénieur.
Ingénieur horticole.
Parce qu'il est horticole, exactement. Ouais. Et après, il est aussi paysagiste, mais paysagiste on va dire plutôt libre. Il a écrit aussi plein de livres, plein de textes.
Et d'ailleurs, il est professeur émérite à l'école, à l'école supérieure.
Il était
du paysage à Versailles. Donc voilà, c'est quelqu'un de...
Qui connaît son métier.
qui est reconnu dans le paysage, c'est le cas de le dire.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'était très sympa qu'il a accepté cette invitation. On ne savait pas exactement ce que ça va devenir, parce que finalement, on se connaît comme ça, on s'est suivi, il est venu voir mes spectacles, moi je suis venu à ses conférences, j'ai été voir ses expositions, je l'ai un peu suivi de loin comme ça. Et je ne sais pas, après l'intuition m'a dit, peut-être on peut faire un truc ensemble, j'aime bien ce... Je sais pas, j'ai développé depuis un moment ces projets un peu hybrides où je me mets en friction avec un autre artiste pour créer une autre façon d'investir la scène, hein, tout en étant proche de la danse qui était mon domaine en fait. Et il y avait plusieurs collaborations déjà dans mon parcours avec Ao, par exemple avec Kylie Walters et Seb Martel. Après il y avait aussi avec Kurt Demey, plus un mentalisme là avec Gilles. Donc c'est un peu des projets hybrides, comme ça. Et il avait accepté. Il savait pas exactement ce qu'on allait faire. Et on a eu la chance d'avoir un appel à projet. On a été lauréat. Il faut que je le dise parce que c'est un programme de recherche. Et j'espère qu'il va continuer à exister si le ministère de la Culture le soutient. C'est la Comédie de Valence.
Espérons.
Ça s'appelle ART, Atelier de Recherche Transdisciplinaire, où on était lauréat en 2024. Depuis 2024, on a eu 2 semaines de résidence de recherche. Et on a pu se rencontrer au plateau finalement, parce qu'on se connaît comme ça, mais on n'a jamais vraiment mis les mains dans...
Dans la terre.
Sur scène ensemble. Donc on s'est découvert aussi comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et c'était un chouette moment. Et finalement, ce projet, c'est un petit cadeau de la vie en fait, de partager ce temps avec Gilles. Et aussi qu'il partage ce temps avec moi sur scène finalement. Et on arrive à créer ce voyage ensemble, ce récit en fait. Voilà, qu'on a proposé hier. Et...
Extrêmement intéressant. On y revient justement. 9h50 sur les ondes de Radio Galère. Il nous reste 10 minutes sur les ondes de Radio Galère. Donc toujours en direct pour parler de vagabondage et conversation avec David Dibilio, directeur des productions et adjoint à la programmation de CLAP Maison pour la Danse. Et donc Christian Huble en tant que chorégraphe. Un mot avec vous, David. Parlez-nous un petit peu justement de ce retour et de ces ressentis d'hier, puisque c'était une très belle première. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Et puis... Comment on peut identifier, un petit peu artistiquement parlant, ce travail, cette chorégraphie-là ? Dites-nous tout.
Alors effectivement, c'était une belle première, une belle soirée. C'est une jolie aventure. Il y a parfois comme ça, dans le champ du spectacle vivant, un champ compliqué parce qu'il y a de moins en moins d'argent. Les conditions de création sont compliquées. C'est la culture, mais comme d'autres domaines, est un peu en souffrance. Et puis comme ça, des fois, on a des belles surprises et des jolis projets. Je me souviens que quand, Christian, tu m'avais parlé de ce projet il y a quelques temps, c'était une sorte de pari parce qu'effectivement, Christian, dans sa carrière, a déjà collaboré avec co-construit des spectacles avec d'autres personnes. Mais là, c'était un peu particulier parce que tu es vraiment quelqu'un voilà, qui n'était pas du tout du champ artistique, qui est une personne qui vient d'ailleurs, et c'était un petit peu un saut dans l'inconnu. Et finalement, on en voit le résultat, et on voit ce résultat qui est quelque chose d'assez décalé, poétique, léger, drôle, et cette rencontre qui fonctionne vraiment avec chacun, effectivement, son jardin, Gilles avec son jardin réel, et puis Christian avec son jardin symbolique qui est la scène. Ces vagabondages et ces conversations ont vraiment beaucoup, beaucoup charmé le public. Hier soir, il y a eu une très, très belle réception dans une salle pleine à craquer. C'était un très joli moment.
C'est-à-dire, parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît, David, pour qu'on puisse bien vous entendre. On peut rappeler la salle Clap, s'il vous plaît, le nombre de personnes qui étaient présentes hier, parce que c'était un vrai succès.
Il y a deux salles qui accueillent le public à Clap. On était hier soir dans la grande salle, donc on était sur une jauge de 230 personnes présentes pour cette création.
Très bien, ça c'est important. Christian, Richard, il nous reste quelques petites minutes, peut-être des questions, ou peut-être parlez-nous des projets à venir. On a évoqué évidemment Clap. Christian, on sait que vous êtes sur différents horizons, j'allais dire différents pays. Hein. Vous étiez, je le disais en off tout à l'heure, mais en Belgique il y a quelques semaines. Est-ce que ce spectacle-là, donnez-nous un petit peu la profondeur de ce spectacle et du relais qui peut donner par la suite, géographiquement parlant.
De vagabondage et conversation.
Exact,
oui.
Okay.
On a des petites perspectives. C'est chouette d'avoir enclenché ça à Clap, ici à Marseille, où la compagnie est installée. La prochaine étape, ça sera Falaise, avec le CDC de Falaise, où on a une invitation en mai. Et après, on a la première en Île-de-France, avec l'atelier de Paris, avec le festival June Events. C'est au mois de juin. Après, on retourne à Périgueux. C'est un festival Mimose où j'ai pu faire un bal il y a 2 ans pour les 40 ans. Et du coup, là, on a reçu une invitation aussi de la directrice. Et par la suite, on a quelques dates de prévues pour la saison 25-26 parce que c'est l'anniversaire de la compagnie. Finalement,
oui,
ça fait 20
ans. Les 20
ans,
oui.
Les 20 ans, ça passe vite, oui. Et du coup, on a plusieurs théâtres qui se sont déjà engagés, comme le Théâtre du Rance, qui était un partenaire fidèle depuis une dizaine d'années, là, maintenant, qui me suit. Il y a aussi le Théâtre Briançonnet, qui va nous suivre, et il y a le Théâtre Suresne, qui nous a soutenu aussi en coproduction, et le Théâtre de Fil de l'eau à Pantin. Il y a aussi la scène nationale du Creusot, qui va nous suivre, et j'espère d'autres. Voilà.
On espère, évidemment. Richard.
Oui, moi je suis surpris par la réunion de ces deux personnalités sur ce sujet, hein, vraiment je le dis. Et le thème de vagabondage, alors c'est surtout sur l'écologie, c'est surtout quel est le thème?
Les grandes lignes, ouais, le synopsis.
La danse mélangée avec la nature, l'écologie. Enfin.
Oui, on parle à la fois du qu'est-ce que c'est un jardin, voilà, on parle des éléments très basiques comme l'eau. Sans l'eau, il n'y a plus rien qui existe. Donc voilà, donc il y a à la fois des fondamentaux qui sont exposés. On parle évidemment aussi, de l'évolution d'un être, comment il s'adapte au fur et à mesure. Il y a deux théories qui disent la marque et comment ça évolue en fait, et comment la nature a évolué au fur et à mesure, et comment elle s'adapte finalement aux différentes situations. On parle du choc climatique, on parle des plantes pyrophytes qui ont besoin de le feu pour faire la dormance,
comment en fait ce sujet qui est quand même un sujet grave.
Il faut venir voir le spectacle. Alors comment je le traite?
On le traite à la fois
avec une certaine légèreté, avec un peu d'humour, mais
la poésie
aussi,
sans doute aussi.
Avec la poésie, bon, évidemment, mais aussi avec des choses très concrètes, peut-être un tout petit peu cinématographiques, ou je sais pas, voilà. Parce qu'on dit, on a des petites conversations ensemble, en même temps, on le traite aussi par des voix off, quand c'est des thèmes plus généraux. Après, il y a des petits intermèdes parce que la dramaturgie est formée sur une émission radio qui s'appelle Radio France Future. on a inventé. Donc il y a quelqu'un qui nous guide avec cette émission radio, et en fait c'est le prétexte que Gilles soit invité et moi soit invité sur le jardin en mouvement, le concept du jardin en mouvement et jardin planétaire en fait, que dont Gilles il a beaucoup écrit. Donc c'était ça qui a inspiré en fait ces thématiques. On parle aussi du plan de gestion qui existe dans le jardin. On passe par la danse contemporaine parce qu'elle a de la répétition. Voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça. J'incarne différentes personnages, on va dire ça comme ça. Voilà, on passe par l'Australie parce qu'on parle des graines qui voyagent. Moi, je suis une graine, l'Edelweiss. J'ai choisi cette voie pour interpréter finalement un peu mon appartenance à l'Autriche. Finalement, on a découvert que l'Edelweiss ne vient pas de l'Autriche, mais vient de l'Himalaya. Donc, vous voyez, donc tout ce vagabonde, tout voyage.
C'est bien de le dire.
Et oui.
Oui, avec des métaphores aussi, comme à un moment... vous dites que les graines ne connaissent pas de frontières et qu'une graine, elle rencontre un milieu qui lui est propice, elle s'installe là, elle s'en fiche et elle pousse. Contrairement où dans le monde des humains, il y a des frontières, on ne peut pas s'installer partout où on veut. Donc c'est à la fois un dialogue drôle et poétique, mais avec des résonances et des métaphores politiques.
Exactement.
Il y a un message politique, d'engagement
citoyen, oui.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, le jardin, c'est la planète, en quelque sorte.
Exactement, Gilles, il le dit.
Le jardin, c'est la planète.
Exactement.
Il faut qu'on ne se rend pas compte, tout simplement, parce qu'on est dans notre petit coin, et on ne s'aperçoit pas qu'on détruit notre jardin commun.
Exact, c'est un jardin commun, c'est très bien de le dire. C'est pas juste je possède mon petit jardin et je ne m'occupe pas du jardin du voisin. C'est notre jardin et presque on doit veiller ensemble que tout ça continue à fonctionner dans l'écosystème où finalement c'est que de l'interdépendance et la communication entre des êtres vivants. Et des fois, c'est vrai, on oublie un peu ça dans la folie de notre époque.
Mais en tout cas, c'est bien de faire des rappels, évidemment, et parler du jardin comme une propriété universelle, c'est important de le rappeler, c'est très bien dit et très bien développé. Tout à l'heure, on évoquait évidemment Gilles Clément comme le volet, j'allais dire, sur le concepteur paysagiste, l'ingénieur horticole, mais au-delà de l'amour pour le paysage et pour c'est l'environnement, c'est l'écologie, c'est l'homme dans toute sa splendeur. Et quand je dis l'homme, je parle avec un grand H, évidemment, et c'est extrêmement intéressant. En tout cas, ça suscite l'intérêt et la curiosité de venir voir cette pièce là il nous reste deux petites minutes. Quelles sont les actualités, rapidement s'il vous plaît, David, de CLAP pour les semaines à venir, et puis après un dernier mot avec Christian pour nous parler notamment de ses prochains projets à venir.
Et rappeler où est CLAP aussi, parce que peut-être pour les deux auteurs qui...
Oui, la Belle de Mai, ben là on est proche. Hein.
C'est dans la Belle de Mai, mais
c'est très, très précisément au 5 avenue Rostand, toutes les infos sur quelesministes.fr. CLAP Maison pour la Danse sur les moteurs de recherche. L'actualité dans les jours qui viennent, je pourrais vous parler de la Biennale des Arts du Cirque, la BIAC, qu'on accueille vendredi 24 janvier, mais c'est surcomplet. Donc c'est vraiment pour info, mais il n'y a vraiment plus de place du tout. La création d'une compagnie d'Occitanie, la Zampa, qui créera son spectacle Empire le 6 février, et après le 8 février le festival Parallèle, qui est le festival des pratiques émergentes, qui est un festival qu'on aime beaucoup et qu'on accueille chaque année à CLAP, qui viendra le 8 avec deux chorégraphes, Marion Zurbach, une chorégraphe marseillaise, et Katerina Andréou, une chorégraphe internationale grecque installée en France, que l'on aime beaucoup. Voilà les prochains rendez-vous à CLAP.
Parfait, merci. Une petite minute avec vous, Christian, pour conclure.
Pardon ?
Vous avez une super programmation.
CLAP a une super programmation, en effet, oui. Christian, je vous en prie.
Oui.
Pour conclure rapidement, vos projets à venir, où c'est qu'on va vous voir prochainement ?
Oui, la prochaine fois, le prochain rendez-vous, je vous donne le 6 février aux Hivernales. On va jouer une pièce qui s'appelle The Way Things Go sur l'interdépendance des êtres aussi, la réaction chaîne et l'effet papillon, un peu inspiré de cette idée-là. Et ça aura lieu le 6 février au Benoît XII aux Hivernales.
À Avignon.
Merci beaucoup d'avoir été nos invités. C'était un vrai plaisir de vous avoir et de finir en beauté avec. On a besoin de légèreté, alors. Les thématiques sont extrêmement profondes, hein, évidemment, mais on a besoin de pouvoir s'évader culturellement parlant. Merci Christian Hume et David Cibilio.
Merci à vous.
Avec grand plaisir. Tout de suite, la programmation de Radio Galère. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 8h, 10h, sur les bandes de la FM par le biais du 88.4, mais également du www.radiogalère.org. Restez fidèles à Galère. Belle journée à toutes et à tous. Merci. Merci. Au plaisir.
Merci.
Merci. Super. Vous
connaissez ça?
Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. Bien.